Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Tout va bien messieurs?
Ça
super.
Va,
super. Je vous déstabilise encore, je me demandais si j'en ferais pas une petite blague, tu vois, genre j'en regarde un et après je dis le nom de l'autre pour vous déstabiliser un petit peu.
Ouais. Mais du coup je regarde plus tes yeux moi, parce que justement t'essayes de le faire, ça fait plusieurs fois que je sens que tu fais la feinte. Et non, mais ça va, moi je me suis juste pris des cordes pour arriver ici.
Ouais.
J'ai emballé mon petit ordinateur portable dans du plastique tellement il pleut.
Entre la pluie et les feintes d'Hugo, c'est difficile quand même cette émission.
C'est pas évident, rendez-vous bien compte de tous les efforts qu'on fait pour
et
faire
surtout
cette
le sixième étage, ça on n'insiste pas assez.
Ouais. Ils connaissent pas le lore de l'émission, tu vois, le sixième étage qu'il faut
parce
monter.
C'est vraiment
pour
le personnage dont on parle pas mais qui est là avec nous tout le temps. Hein.
C'est la star en fait de l'épisode, l'environnement. Alors, pour commencer, on va passer par le protocole habituel. On va d'abord remercier Third Edition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo qui sponsorise cet épisode. La petite nouvelle, je crois, c'est qu'ils ont sorti des affiches récemment. Ils vont faire des affiches en fait qui sont basées sur les couvertures de leurs livres et chacune des couvertures est faite par des artistes un peu différents. Et là, je crois que c'est Steve Purcell, donc l'artiste original de Monkey Island, qui a fait cette affiche et qui est disponible, je crois, pendant un mois.
Ouais, en fait, ils veulent faire une espèce de roulement pour proposer. Et puis bon, bah là, c'est vrai que pour une maison d'édition, avoir l'artiste original, quand c'est une couverture, c'est fou, quoi. Tu vois, si moi j'avais pu avoir un dessin j'ai eu d'ailleurs un dessin des mecs de Dead Cell pour le truc, ça fait toujours super plaisir. Là, ressortir quand c'est un jeu qui a 30 ans, tu vois, comme Monkey Island, c'était un peu ouf. Donc, bah ouais, c'est ça, ils les font tourner pendant un mois. Ils avaient déjà fait un artbook où il y avait toute leur couverture jusqu'à présent. Et bah voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que moi j'ai hâte en fait qu'il y ait trois couvertures, tu vois, de trois livres en particulier qui arrivent parce que j'aimerais bien les avoir chez moi.
Non, mais c'est vrai qu'en plus elles sont canon. Moi j'ai vu celle de Berserk là, le livre qui va sortir bientôt de Halt 236, qu'on salue évidemment. voilà, donc elle est vraiment canon, donc ça va être cool. Donc vous pouvez aller voir ça sur leur site. On remercie également nos patriotes puisque bah ça y est, on vient de passer le premier palier, on a dépassé les 300$. C'est maintenant on rentre dans la deuxième phase hein, donc du fin du game Cinematic Universe avec l'objectif donc cette fois-ci vraiment de sortir de nos zones de confort parce qu'avec les moyens qu'on a actuellement on peut garantir la régularité mais on doit malgré tout rester sur des jeux qu'on connaît un petit peu déjà parce que bon c'est quand même compliqué de prendre des gros jeux et de les intégrer dans nos emplois du temps pour en parler ici mais voilà si on atteint cet objectif on va pouvoir parler de choses comme Nier Automata, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, voilà des gros jeux qui nous demanderaient un investissement
Max
en temps
Max et Hugo ils vont passer 1000 heures sur Diablo chacun.
Voilà c'est XR qui veut nous imposer ça donc
on va rejouer à grand.
Je vous invite dans le Discord FDG à vous insurger contre cette tyrannie qui nous fait subir cette personne.
Il nous sort des trucs comme Diablo, Mass Effect,
oh là là,
avec Hugo on se regarde en fait.
Half-Life,
il nous a sorti FF7 mon gars, FF7 il faut qu'on fasse ça, vous rendez compte.
J'ai parlé de Borderlands aussi, incroyable.
Il est terrible.
Half-Life je suis chaud, mais le reste non.
Très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hollow Knight, un jeu qui a reçu une espèce de grosse vague d'amour quand on en a parlé dans le Discord. Ça m'a un petit peu étonné, c'est un jeu, bon voilà, on va voir, est-ce qu'il est si bien que ça, c'est ce que je me demande, et ce qu'on va essayer de voir donc aujourd'hui
dans notre test de 10 minutes,
dans ce nouvel épisode de Fin du Game. Alors, Hollow Knight, c'est sorti février 2017, il me semble, sur PC, c'est ressorti après sur Switch un an et demi après, c'est sorti pendant l'été 2018, si je dis pas de bêtises, et c'est sorti après sur PS4 et Xbox One en septembre, mais c'est surtout le premier jeu dont on parle qui a été financé sur Kickstarter, je crois.
Ouais, un jeu qui a été kickstarté donc en novembre 2014, soit quelques mois tout simplement après leur Game Jam, le projet de Game Jam qui a été un peu la base du projet qui s'appelait Hungry Knight, qui est sorti donc en août 2014 et en novembre 2014, ils demandaient 35 000 $ pour faire donc un Metroidvania avec des visuels qui claquent.
Ouais, il y avait déjà quand même une bonne base au niveau artistique quand ils ont présenté le projet.
Ouais, on reviendra un petit peu du coup sur la team et d'où ça peut venir, mais pour terminer sur le Kickstarter, donc sur les 35 000, ils en ont récolté 57 000, ce qui concrètement n'est pas énorme hein, pour un jeu qui a pris 3-4 ans à être développé. On trouve des sommes qui dépassent largement le million hein, sur une plateforme comme ça.
Et... Ouais, même pour des indés, c'est vrai que 57 000 $, surtout qu'ils étaient 3, c'est ça. C'est vrai que c'est pas grand.
Plus le compositeur.
Hein. Plus, voilà, et puis t'as des gens qui ont quelques sous-traitants aussi,
Ça paye les nouilles chinoises, quoi, pendant...
Mais c'est ça, en gros, ils ne sont pas salariés. Alors après, bon, ils avaient des fonds propres et du taf à côté, on va en reparler. Ouais. Mais c'est sûr qu'en termes de budget, il faut bien se dire qu'un jeu comme Hollow Knight, ça a dû coûter probablement 6 à 7 fois cette somme-là.
Ils ont reçu quand même, je crois qu'ils disaient, c'était environ 40 000 $ de Indie Fund, qui est un fonds destiné à des projets indépendants et qui a été monté par d'anciens développeurs indépendants qui ont eu du petit succès et qui ont décidé de monter ça. Concrètement, je ne sais pas ce que ça veut, mais j'imagine que c'est de l'ordre, c'est du taux peut-être à 0%, tu vois. Enfin, du prêt à taux zéro, quelque chose comme ça. Et une fois que ton jeu il a réussi, c'est là que tu commences à le
rembourser. Ah d'accord, ok.
Il me semble que c'est comme ça un petit peu que
et après ils ont reçu même encore, je crois encore des dons après sur PayPal qui venaient compléter en fait ces 57 000 qu'ils avaient reçus.
Comme souvent avec aussi Kickstarter, c'est que le Kickstarter il se termine généralement en un mois, mais après t'as toujours le lien PayPal qui fonctionne et t'as des gens qui continuent de donner. C'est une des raisons pour lesquelles donc il y avait comme souvent Kickstarter donc des paliers. Donc une fois que tu dépasses X dollars, tu promets telle chose dans ton jeu. Et il y avait notamment le Coliseum of Fools, en
français, le Colisée des fous,
voilà, tout simplement. On a un peu souffert, qui n'était pas atteint. Donc quand ils ont récolté les 57 000 $, il fallait je crois 62 000 $, quelque chose comme ça pour le Colisée, et au final ils l'ont fait quand même parce que par PayPal ils avaient reçu suffisamment de dons. C'est l'occasion de parler un petit peu des paliers aussi
ils avaient même un palier qui était intéressant, c'est qu'il y avait un deuxième personnage jouable à la base, en tout cas dans les promesses, et qui se trouve être Hornet, et finalement ils ne l'ont pas fait. On a appris récemment qu'ils avaient décidé d'en faire un jeu tout simplement puisqu'ils avaient la base, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un palier qu'ils avaient atteint.
Je crois qu'il l'avait atteint.
Et du coup au final ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'est l'ambition du jeu finalement, toute la construction qui les a dépassés, et d'ailleurs ils l'ont dit, je crois, c'est que tous les gens qui ont financé le jeu auront le donc Silk Song, donc Hollow Knight 2 entre guillemets, quand il sortira ils l'auront directement. Les backers, merci. Voilà.
Ils avaient promis aussi un portage sur Wii U, et au final, ils l'ont pas fait pour sortir
spoiler,
sur Switch.
Ça ne sortira pas sur Wii U.
Ça, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu, tu vois, le palier, j'ai dit, ah non, j'espère qu'ils l'ont pas fait, parce que déjà qu'ils avaient pas un budget de malade, faire un portage sur une console qui s'est pas énormément vendue et qui était un petit peu morte.
Elle était condamnée, en fait. Hein. À ce moment-là, c'était quasiment la fin. Il y avait les... comment ça s'appelait encore le...
En 2014,
on avait déjà les commences premières rumeurs. Tu sais, de la Switch qui commence à arriver, comment on l'appelait avant?
La NX,
ouais, c'est ça. On avait déjà les premières rumeurs de NX, etc.
Déjà en 2014, ouais. D'accord.
Oui. Mais en même temps, c'est les Kickstarter de l'époque, c'est rigolo. C'était souvent PS Vita, Wii U. En fait, aucune des deux n'a fonctionné.
À l'époque, c'était certainement une mauvaise idée, en tout cas en 2014. Mais avec le temps, tu vois, ils se sont dit, non, on va le faire sur Switch. Et on voit ça souvent, tu vois, dans des projets parfois où les choix qu'ils font, en tout cas les promesses de paliers qu'ils font, vont peut-être plutôt leur mettre du plomb dans l'aile ou en tout cas vraiment être pénible au développement. L'exemple qui avait été dans le bouquin Bloodset and Pixel de Jason Schreier, qui est très sympa, qu'on recommande de lire. Il parlait de Pillars of Eternity qui a été kickstarté, et eux, une des promesses qu'ils avaient faites, c'était de faire une seconde ville, en fait, parce que t'as apparemment... Alors moi je l'ai pas fait, Exart a dû le faire, j'imagine, c'est le genre de jeu.
C'est pas ma cam, hein.
On arrête, hein.
Travail des gens qui n'ont aucune culture.
et donc Pillars of Eternity, ils avaient promis donc une seconde ville, et ça les a vraiment plombés dans le développement, parce qu'ils étaient chauds pour faire la première ville, qui est une grande ville apparemment, et là le coup de la deuxième ville, c'était vraiment, ils l'ont fait parce que c'était une promesse qu'ils devaient respecter. Ça les a fait chier, quoi.
En fait, quand vous backez un Kickstarter, il faut se rappeler de quelques règles. La somme qui est demandée est vraiment infiniment inférieure à ce dont ils ont réellement besoin, parce que ne serait-ce que les promesses physiques, tout ce qui est récompense physique, ça coûte un rein. Envoyer des peluches à l'autre bout du monde pour un machin où t'avais juste demandé 50 balles de plus, c'est une connerie sans nom, faut jamais faire ça. Et surtout, les stretch goals ne sont jamais réalistes, c'est-à-dire que quand tu demandes simplement 10 000 $ de plus, tu ne peux pas déterminer à l'avance que ça va te permettre de faire du contenu. Donc c'est juste pour récolter plus de sous, les stretch goals, en espérant que ça permet de créer une espèce de momentum qui font que les jeux fonctionnent. Mais même même des jeux comme Pillars ou même Shenmue, je veux dire, c'est un exemple, et puis on va pas parler de Star Citizen, mais tu vois, si tu prends juste Shenmue qui a réuni des millions, ça n'a quand même pas suffi à financer le développement du jeu, parce qu'un jeu vidéo, ça coûte horriblement plus cher que ça.
Mais qui sont quand même tous, alors bon, pas bon, Shenmue et Star Citizen pour le coup, pas encore, mais pour Pillars et Hollow Knight, quand même des jeux qui sont sortis, hein, en partie grâce à ça, parce que c'est aussi un outil marketing. Le fait d'avoir un Kickstarter qui marche, c'est déjà parfois l'assurance de faire parler de toi dans des sites de jeux vidéo et donc d'amener une communauté qui va suivre un petit peu le projet. Et parfois, t'as les personnes, oui, qui lancent le Kickstarter pour récolter un peu d'argent, mais aussi pour s'assurer qu'il y a une base derrière qui
te ça fait quelques années que, de toute façon, Kickstarter aujourd'hui c'est utilisé comme un outil de com extrêmement puissant. Ça permet de créer une communauté, de communiquer avec cette communauté là et en plus de faire fonctionner du bouche à oreille et de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est vraiment plein d'avantages en un seul outil. Donc bien souvent, quand vous envisagez de faire une campagne de Kickstarter ou quoi, faut même l'anticiper 6 mois, 1 an à l'avance. Créer la communauté pour que le jour où vous démarriez, vous ayez déjà un certain pourcentage, une espèce de masse critique de gens qui vont déjà donner de l'argent. Ça fait parler du jeu parce que ils rapportent de l'argent rapidement, donc ils se mettent à en parler et ça fait boule de neige. C'est en tout cas le meilleur des scénarios, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que là, comme ils avaient demandé finalement très peu pour Hollow Knight, hein, parce que 35 000 c'est vraiment des petites sommes, ils ont réussi à attirer les gens avec leur style visuel qui est assez incroyable.
Et du coup, ceux qui demandaient l'argent, c'était donc la Team Cherry.
Effectivement. Qui sont la Team Cherry?
Eh bien, il y a Harry Gibson. Alors, les deux qu'on connaît en général, c'est Harry Gibson et William Pellen, qui sont les deux co-directeurs. Et à l'époque de Hollow Knight, il y avait David Casey, qui a été remplacé depuis par un autre. Ou alors, c'est l'inverse, juste.
Non, c'est lui qui a été remplacé. Ouais, lui, c'était le dev, en fait.
Non, ouais, voilà, c'est ça.
William Pellen, il dit c'est le mec qui savait programmer.
Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, tu l'avais cité tout à l'heure, Christopher Larkin, qui lui a fait la musique et le sound design, mais qui ne fait pas partie de la Team Cherry. Mais c'est pour ça, comme on disait, 35 000 dollars déjà. Tu dois payer des gens en plus, c'est de l'argent qui part très vite. Et donc Harry Gibson, qui est donc un des deux co-directeurs, lui, il est fondateur et il dirige un studio qui s'appelle Mechanical Apple, un studio d'animation.
Voilà,
donc
lui,
il vient de ce milieu-là et on le voit, quand on parlait tout à l'heure des visuels de Hollow Knight qui claquent, hein, clairement c'est un des premiers trucs qui nous saute aux yeux, c'est vraiment les visuels et l'animation aussi des différents personnages, la richesse, que ce soit sur les couleurs, le design et tout, on aura l'occasion de
rentrer en détail. C'était déjà la promesse même dans le Kickstarter, parce que vraiment je pense que sur Kickstarter, dans cette espèce de grand océan, pour se faire remarquer, avoir une direction artistique, c'est quand même la première arme, c'est le premier truc que tu donnes aux gens. Et là, c'est vrai que Hollow Knight a un vrai style. Et en plus, quand ça s'anime devant toi, littéralement, pendant le trailer, là, ça en voit encore plus, quoi.
Et à côté, on a William Pellen qui, lui, il vient pas vraiment du jeu vidéo. Lui, son métier, vraiment, c'est web designer, mais il fait des jeux pour lui, en fait. C'est quelqu'un, apparemment, qui a fait des jeux dans son coin. Et donc, tous les deux, ils se connaissaient avant. Ils se sont retrouvés à... Alors, je sais pas si c'était une Ludum Dare.
C'est une Ludum Dare,
Une game jam. Donc c'est ces moments où on est des petites équipes, il faut développer un jeu très rapidement. En général, c'est 1, 2, 3 jours, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Et donc, ils ont fait Hungry Night tous les deux, était un concept très différent. Donc comme on a dit, de toute façon c'est fait en 2 jours, donc forcément vous faites pas un Hollow Knight en 2 jours. Et ça reprenait ce qui a été repris, c'est principalement donc l'esthétique du héros, donc le knight, ça a pas bougé, le fait qu'il se batte un petit peu avec une épée, que les ennemis soient des insectes. Et c'est à peu près tout. Il y avait une mécanique, la mécanique centrale de la game jam, c'était qu'au bout de 10 secondes, il mourait s'il ne tuait pas un ennemi. Il avait une espèce d'orbe, en fait, qui se remplissait quand tu tues un ennemi. Ça, on le retrouve dans le jeu où tu vas récupérer de l'âme, de la soul pour te soigner. Mais c'est à peu près tout. C'était pas du tout un Metroidvania ou quoi. Ils ont vraiment
eu dessus, en plus. Donc voilà, on n'était pas
Et
du
en fait,
tout
ce qu'ils expliquaient, c'est que ils ont voulu participer à une autre game jam où le thème, cette fois-ci, c'était plus 10 secondes, mais c'était sous la terre. Et ils se sont dit, c'est un signe. Tu vois, c'est le destin, et ils ont commencé à créer en fait leur délire d'univers avec des insectes. Ils se sont dit que dans un Metroidvania, étant donné qu'on est face à un labyrinthe, etc., de loin ça peut ressembler à une fourmilière ou à un nid d'insectes, à une espèce de vivarium. Et du coup ils sont partis dans ce délire là, et puis ça a fait, comme ils disent, boule de neige, et ils ont fait Hollow Knight à la fin.
Et une des raisons pour lesquelles aussi c'est des insectes, c'était que ils avaient pas énormément de temps. Le mec, il s'est dessiné, il s'est dit un insecte à faire, c'est assez simple, hein. Tu fais une forme assez rudimentaire, tu mets des pattes, pattes et ça va, tu vois, tu reconnais l'insecte. Donc encore une fois, un exemple de contrainte qui peut donner un petit peu lieu à de l'innovation.
Alors que le résultat, il est super, tu vois, à l'écran. Oui. Parce qu'il expliquait qu'en gros, il faisait des dessins. En une journée, il pouvait faire 5, 6, peut-être même une dizaine de personnages différents avec un design assez marqué. Il les prenait en photo, il les clinait un peu sous Photoshop et derrière, il commençait à les animer. En quelques jours, ils arrivaient à créer des personnages ultra rapidement parce qu'en fait, le style de dessin est assez minimaliste finalement.
Et du coup, bah, c'est un jeu qui a eu vraiment plusieurs vies puisqu'il y a eu cette vie au Kickstarter et ensuite la sortie sur PC qui a quand même bien fonctionné, il me semble, qui a bien marché.
Bah, c'était juste au moment où le jeu est sorti sur Switch, donc là c'était en 2018,
après,
du
voilà,
coup,
ouais,
à peu près, il y avait 1 million de ventes sur PC. Quoi.
Déjà, voilà. Et après, bah, quand il est ressorti sur Switch, en fait, il a bénéficié de tout ce, de toute cette espèce de fanbase qui était là, qui avait beaucoup aimé le jeu, et là, il a complètement explosé sur Switch. Il y a même beaucoup de gens qui ont l'impression de découvrir le jeu en 2018. Il est apparu dans plein de tops en 2018, alors que c'était un jeu qui était sorti en 2017. Donc, il a vraiment eu cette deuxième vie-là sur Switch. Et puis bon, c'est un jeu qui s'y prête quand même beaucoup. Moi, j'ai vraiment mes souvenirs quand je jouais sur ma Game Boy Advance à Metroid Fusion, tu vois. Vraiment, Hollow Knight, moi, je l'ai commencé sur PC et puis après, je l'ai redécouvert sur Switch. Ça m'a vraiment renvoyé complètement à ce type d'expérience. Donc, ça se prête très bien à la portable, quoi.
Mmh. Là, c'est un des jeux qui cartonne limite plus sur Switch que sur les autres. L'autre exemple, c'était Shovel Knight.
Ouais.
Il me semble qu'ils avaient déclaré qu'ils avaient plus vendu sur Switch que sur toutes les autres plateformes confondues.
Ouais, c'est pour ça que ça a été la ruée vers l'or, hein, le début de la sortie sur Switch.
Ouais, il est arrivé
Success Story
moment,
avec Wonderboy Dragon's Trap, qui avait déjà très bien fonctionné. Et Hollow Knight, il était ultra attendu. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que la Switch, ça a créé ce momentum de est-ce que le jeu il va sortir sur Switch
vraiment,
c'est vraiment la question aujourd'hui. Tous les développeurs, on leur pose deux questions. Quand est-ce qu'il sort et est-ce qu'il va sortir sur Switch? C'est vraiment la seule chose qu'on veut savoir aujourd'hui. Tous les gens veulent un jeu sur Switch, donc quand tu l'annonces, en plus là ils se sont mis en partenariat avec avec Fangamer pour faire une édition physique. Ils viennent de sortir un artbook, là ils viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu, enfin c'est sorti sur PS4, sur Xbox, ils ont rajouté je crois à peu près 40 ou 50 heures de contenu en termes de DLC, tout
là,
s'offert.
Là on est à presque 3 millions de ventes là.
Ouais, et là on est quasiment à 3 millions de ventes, ce qui est énorme pour un jeu vendu 15 balles avec deux types au départ.
Ouais.
Très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc évidemment, il a reçu quand même des critiques très positives, surprise. On va peut-être, comme d'habitude, rentrer dans le jeu par son histoire. Et cette fois-ci, c'est XR qui va s'y coller, je crois.
Ouais, tout à fait, parce que j'ai regardé tout un tas de vidéos et que j'ai refait le jeu très récemment.
Ouais.
Je me suis arrêté juste avant la fin parce que je me suis pris une grosse rouste, par ce fameux Colisée des fous.
En général, les conversations qui commencent par j'ai regardé plein de vidéos, je m'attends à ce qu'ils disent que la Terre est plate ou qu'il y a un truc.
Ça y est, c'est vrai que YouTube ça va très vite. Hein. Tu commences, tu regardes une vidéo de Hollow Knight et juste après tu vois des lézards dans la rue. Ça devient compliqué. Non, j'ai regardé plein de vidéos parce que justement l'univers de Hollow Knight il est très particulier. C'est un univers, du coup, c'est que des insectes, donc ils ont créé toute une mythologie autour de cet univers là. Mais plutôt que de me parler de ça, moi je vais plutôt parler de l'histoire du Knight, comme ça on va vraiment un peu raconter l'histoire. On voit donc ce petit personnage qui est un perce-oreille qui arrive dans le village de Dirtmouth. Je ne sais pas le prononcer. Dans l'ancien royaume de Alonest, en fait, qui est un royaume a priori qui a été oublié, et il va découvrir très rapidement que tout se passe sous terre et qu'il y a eu une catastrophe. On ne sait pas trop ce que c'est. Il va commencer à entendre parler de différents personnages, d'un roi qui aurait disparu, d'un espèce de worm, ce qu'ils appellent des espèces de divinités. On ne sait pas trop ce que c'est. Et petit à petit, il va tomber sur d'autres personnages qui sont encore sains d'esprit, parce que la plupart des insectes qui croient sont devenus fous, en la personne de Hornet, qui est une jeune fille qui va essayer de l'empêcher d'avancer. Et plus ça va aller, plus il va découvrir en fait les pouvoirs dont il dispose. Il va découvrir un petit peu sa propre histoire. Il va découvrir qu'il était lui-même le sujet d'une expérience pour devenir le Hollow Knight, mais que finalement il n'a pas été pris. Hein. Il a été rejeté au casting. Il ne fera pas The Voice cette année.
Et, Jennifer ne s'est pas retournée.
Aïe, dommage. Et à la toute fin, en fait, petit à petit, ce qui est génial, c'est qu'on voit le personnage de Hornet qui passe de ennemi à finalement peut-être que c'est lui qui va nous aider. Et donc, on n'a pas le sentiment de jouer un héros dès le départ, ça le devient au fur et à mesure de l'histoire. Et ça, c'était plutôt intéressant. Et donc, l'objectif, ça va être pour le Knight, ça va être de tuer les différents protecteurs d'un énorme seau, un énorme caveau dans lequel ils avaient enfermé le Hollow Knight. À l'intérieur du Hollow Knight, si on fait la vraie fin, on découvre que il y avait Radiance, cet être de lumière qui est à l'origine de tout le bordel dans l'univers. Et donc avec l'une des 5 fins du jeu, la très bonne fin, en gros, c'est on réussit non seulement à tuer le Hollow Knight, grâce à Hornet, on arrive à rentrer à l'intérieur du rêve du Hollow Knight pour aller tuer Radiance, et donc on tue Radiance, on meurt, mais on a sauvé le monde.
Exactement, c'est Radiance qui répondait à cette espèce d'infection qui a pris le dessus sur l'esprit d'une bonne partie des insectes, pas tous, puisqu'il y en a certains qui continuent de résister à l'envahisseur, notamment les mantes.
Ouais. Et les abeilles.
et les abeilles, effectivement, puisqu'elles sont restées dans leur coin, dans leur ruche. Mais ouais, il y a vraiment, en fait, lui, c'est la deuxième expérience, puisque le Hollow Knight, c'était aussi une expérience à la base. Ils l'ont créé, ils l'ont rendu fort pour qu'il puisse contenir justement cette puissance de la radiance. C'est pour ça qu'il est enfermé dans cette espèce de gros cocon. Et ensuite, on tue les trois rêveurs et on peut ouvrir le cocon et
on
y aller.
On peut rallumer la flamme. Pardon.
Ouais. Non, mais de toute façon, on en parlera dès le début. C'est une histoire qui se rapproche beaucoup des scénars des différents Dark Souls. On retrouve souvent cette idée d'un héros malgré lui qui se retrouve face à un destin qu'il contrôle pas et il va se retrouver à devoir choisir entre remplacer la grande force en place la détruire et se détruire lui-même par la même occasion.
Déjà, le titre Hollow Knight dans les Dark Souls, le terme Hollow, c'est tout ce qui renvoie à ceux qui sont devenus fous. Ça a été traduit par carcasse.
C'est la carcasse.
Ouais.
Et du coup, Hollow Knight, c'est littéralement ce qui pourrait décrire le personnage de Dark Souls. Quoi. Ouais, on en reparlera peut-être un petit peu après.
Sachant qu'en plus, dans Dark Souls, l'origine du mythe du truc, c'est que les personnages, quand ils meurent, à force de mourir, comme ils sont immortels, ils deviennent fous parce que la mort les rend de plus en plus tarés. Et toi, tu es le seul que ça ne rend pas fou. Ouais. Là, l'idée du Hollow Knight, le fait qu'il soit vide, ça vient d'une idée qui leur est venue au fur et à mesure. Mais ils ont créé toute une mythologie au cours de cette idée du vide, le void, qui est opposée à la Soul, la version. Donc il y a un délire un peu yin-yang, avec du blanc, du noir d'un côté, et ça fonctionne plutôt pas mal.
Radiance, du coup, désolé, j'entends, mais qui est l'occasion, du coup, tu parlais de toute la mythologie des insectes, et Radiance, qui est vraiment une lumière qui rend les insectes fous, comme on peut l'observer souvent, les insectes qui foncent vers la lumière et qui se crament dessus.
Alors, je suis allé sur Google, coupe encore, Hugo, je suis désolé, mais après, on te laisse 10 minutes.
Tu peux pas caser mes petites anecdotes, moi aussi.
Ma petite anecdote à moi, c'est que je me suis dit, mais pourquoi les insectes sont attirés par la lumière?
Oui, pourquoi? Alors, pourquoi?
Eh ben, écoute, Jamy, c'est facile. En fait, les insectes, normalement, tu vois, pour se déplacer la nuit, ils se basent sur les étoiles, apparemment. Comme les navigateurs, tu vois, ils regardent les étoiles. Et donc, forcément, le jour où l'être humain, il s'est dit, mais on va faire de la lumière nous-mêmes, les insectes, en fait, ils se sont dit, putain, mais elle est immense cette étoile. Et en fait, c'est tellement fort que ça les rend complètement tarés. D'accord. Et c'est pour ça que souvent, les insectes, on les voit voler jusqu'à s'épuiser et mourir de fatigue. Et donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans Hollow Knight, ils se sont dit, cette lumière, ça rend fou les insectes. Et ils ont créé cette folie, l'infection et radiance, tu vois. Donc, c'est plutôt une bonne application d'un effet anatomique, enfin, un truc réel, à leur univers de fiction.
Ça aurait tellement que ce soit juste une boule disco naze de notre univers, tu vois.
Et à la fin, dès qu'ils se collent dessus,
non, mais c'est vrai qu'ils se sont réappropriés pas mal de trucs du monde des insectes. Tu le disais, il y a cette espèce de Metroidvania qui fait vraiment penser à la fourmilière. Et puis, moi, il y avait le sang bleu aussi. Vous savez, vous avez une mécanique dans le jeu, si vous tapez des espèces de petits cocons, et ça vous donne d'une espèce de plus de vie. Et en fait, l'hémolymphe, qui est donc le sang, entre guillemets, des insectes, en anglais, on appelle ça le blue blood. Donc, c'est vraiment, ils ont aussi repris ce truc-là. T'as aussi le hive avec tous les. Donc, la ruche où vraiment tu sais ils partent à se touche, c'est un peu elles obéissent tous à la reine, donc t'as vraiment plein de choses en fait qui sont reprises de l'univers des insectes et qui fonctionnent bien. Et c'est intelligent parce qu'ils sont inspirés du monde des insectes et ils ont fait aussi infuser tout ce côté un peu on va dire magique, c'est-à-dire le yin et le yang avec le vide et l'âme, tu vois. Ils ont créé une espèce de mythologie un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contentés de dire ok, c'est les insectes, tu vois. Ils ont vraiment investi des espèces de mythes et ça donne beaucoup d'épaisseur en fait à l'univers, je trouve. Parce que au début, je peux te dire, moi quand j'ai commencé à jouer, pour la petite histoire, en fait j'ai joué 10 heures sur PC et après ça m'a un peu saoulé et après je m'y suis remis sur Switch après. Ouais, non mais. Non, mais on en reparlera. On
parlera du fanboyisme d'Exar.
Non, mais et c'est vrai que tu peux te dire, c'est juste des insectes et tout, mais au fur et à mesure que tu te plonges dans l'univers, tu comprends qu'ils ont vraiment essayé de rajouter quelque chose, de vraiment construire un monde derrière, un univers qui est cohérent, je sais pas, parce qu'il y a quand même une espèce de part d'opacité, c'est pas forcément toujours très clair. Tu sais, l'histoire des worms, là, des grandes divinités, c'est un peu pas bancal, mais tu peux pas faire le lien entre tous les éléments. Mais par contre, il y a une vraie épaisseur et un vrai mystère qui t'attire complètement et qui constamment t'aide à t'enfoncer, en fait, dans le monde du jeu, quoi.
Non, pour quand même aller dans ton sens, ce que faut pas croire, moi je suis un peu d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai commencé à vraiment me dire, ok, ces mecs-là, ils ont touché un truc. Quand tu tombes sur les mantes et que tu fais le combat contre les reines mantes, ça marche bien. Et surtout quand t'arrives à la Cité des Larmes, qui est cette immense ville qui se trouve donc sous un lac dans l'eau et il pleut en permanence avec cette musique tout le temps mélancolique, tu te dis, ah oui, en fait, parce que c'est vrai que les premiers niveaux, c'est un truc sous le sol. Ensuite, tu vas arriver à Green Pass et donc, il y a de la mousse et oh là là, il y a des champignons. Bon. Le début est pas forcément ultra sexy, et puis plus ça va aller dans des délires de grand n'importe quoi, et c'est vrai que c'est un jeu qui t'aspire petit à petit, et à la fin, tu deviens fan, voilà, c'est obligatoire, j'avais pas le choix.
Il y a une vraie richesse, en fait, que tu découvres, ça s'arrête jamais, en fait, c'est vraiment constant, que ce soit dans la variété des environnements ou des ennemis, il y a vraiment toute cette exploitation de l'univers des insectes, qui sont aussi des univers fascinants, hein, quand tu peux regarder des documentaires ou des vidéos sur Internet pour te montrer, et tu vois, que ce soit les fourmis, les abeilles, enfin, ils ont su exploiter un petit peu tout ça avec des ennemis qui exploitent justement un petit peu ces caractéristiques anatomiques hein, de leur espèce, avec t'as des moustiques qui te piquent, des bourdons qui t'écrasent.
Il y a un bousier, il te jette des caca qu'il a fabriqué lui-même. Ça fait partie des personnages les plus marquants. Ouais. Le perce-oreille, enfin les différents perce-oreilles vont essayer de t'attaquer. Quand t'as des scarabées, comme on les appelle, tu sais, qui ont une énorme corne, ils vont te foncer dessus. Ce qui marche bien, c'est que tu vois, on met toujours en avant le design de Mario en disant ah oui, la fleur, la tortue, on a compris qu'il fallait sauter dessus. Il y avait une espèce d'affordance, tu vois, de la tortue, tu comprenais qu'il fallait sauter dessus. Là, les insectes, tu vois un moustique, tu sais qu'il va te piquer, tu vois une abeille, c'est pareil. Donc ça marche très très bien. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont même été un peu. En fait, quand ils sont comment. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est que tu sens que c'est parti d'une conversation autour d'une bière et c'est parti beaucoup trop loin. Tu sais, tu les vois en train de dessiner des trucs sur des tableaux blancs chez eux parce qu'ils se sont dit ah oui, mais alors attends, il y a des millions d'années, il y avait des trilobites, alors on va dessiner des trilobites un peu partout. Et donc, c'est pour ça que tu vois ces espèces de formes sur lesquelles tu tapes et qui te donnent des âmes qui sont en fait des fossiles de vieux insectes qui reprennent des formes d'insectes qui n'existent plus ou qui existaient il y a des millions d'années et qui sont genre les ancêtres de toutes les autres espèces qui existent aujourd'hui. Ils sont partis dans ce genre de délire avec des sociétés, avec des castes, des sociétés qui ont fait de la diplomatie.
Tous les sens. Beaucoup aimé ce côté-là, tu vois, t'as la ruche où ils vivent tout seuls, ils se sont vraiment reclus, la reine, elle gère son truc. T'as les mantes qui, elles, sont un petit peu au milieu du royaume et qui protègent de Deepness, donc là, c'est le nid profond avec les araignées. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé cette surprise, c'est-à-dire que tu continues à descendre et quand t'arrives vraiment à Deepness, ça grouille. En plus, ils font ressortir les ennemis, en fait, du fond du décor et elles apparaissent un petit peu comme ça, elles se tissent un peu dans des toiles et tu sais, c'est vraiment un endroit qui est très oppressant. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Et puis il y a une DA qui est magnifique, tu vois, elle se fait leurs maisons, elles sont faites dans des espèces de grosses toiles, t'as des espèces de gros cocons, enfin t'as vraiment toute cette cohérence, tous ces petits univers, t'as les champignons, t'as l'endroit avec le feuillage et compagnie, et c'est vrai que t'es toujours dans la surprise, en fait t'es toujours dans l'émerveillement. À chaque fois que tu découvres une nouvelle zone, tu fais ah bah oui, c'est logique que ça soit là, c'est logique qu'il y ait des araignées, qu'il y ait un truc comme ça. Et puis après, quand tu t'enfonces encore, quand tu vas dans l'ancien bassin où tu sais, il y a les cloportes qui sont un peu morts, il y a quasiment plus de couleurs, et après tu descends encore dans les abysses, et là c'est vraiment l'espèce de noirceur qui nourrit un peu ce monde par le dessous. Et je sais pas, il y a quelque chose de... Ouais, c'est vraiment, tu vois, au début du jeu, c'est pour ça que j'étais pas dedans, parce que tu vois pas tout ça. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, tu avances, tu descends, et en fait, il n'arrête pas le jeu de te mettre des petites tapes comme ça sur les épaules. T'as vu comme c'est cool, et il t'en met, tu vois. Et
ce qu'il faut dire, c'est si vous l'avez pas fait ou si vous n'avez pas tombé sur la ruche, c'est que la ruche, tu peux complètement passer à côté. C'est un univers entier avec leur histologie, leur lore, etc. Et en fait, il faut taper dans un mur à un endroit, et boum, il y a la ruche qui est derrière. Et là, c'est un grand niveau, il y a un boss, il y a une reine, enfin, il y a toute une histoire. Et moi, ça, du coup, forcément, ça rappelle aussi un peu Dark Souls. Avec ces niveaux cachés qui peuvent complètement, tu peux complètement passer à côté parce qu'ils sont totalement optionnels, mais ça fait partie de ces trucs qui sont là pour vraiment récompenser les joueurs en se disant t'es allé jusque là, t'as vu tout ça, tiens, on va t'enfiler encore un petit peu plus, tiens, on vous en remet un petit peu. Parce qu'en plus, ils ont, même dans leur concept, dans leur manière, dans leur processus créatif, ils l'ont dit, ils ont créé les univers d'abord en se disant tiens, je veux une zone avec des champignons, je veux une zone avec ceci, et après, à la fin, ils se sont dit on va essayer de créer un tout cohérent. Tu vois, quand ils se sont dit on va s'enfoncer sous terre, ils se sont même dit à un moment on va tomber sur de la lave, parce qu'au bout d'un moment on va arriver à la croûte terrestre, et du coup il y a tout un niveau avec de la lave qui a été finalement effacé parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué à mettre en place, mais ils ont vraiment essayé de créer au fur et à mesure. Ils ont d'abord fait des choses et après ils se sont demandé comment ça pourrait s'intégrer à cet univers là et ils ont réussi à créer une espèce de glue, hein, de liant qui réussit justement à donner une forme cohérente à tout ça, et ça marche super bien, quoi.
Et autre chose qui soutient complètement cette ambiance, c'est la musique, tout le sound design et la musique donc de Christopher Larkin, comme on avait cité tout à l'heure, où tu vois, quand Hugo parlait un petit peu des abysses et tout, ou dès qu'il n'y avait plus de couleurs, un autre truc auquel j'ai pensé, c'est vraiment le silence de ce moment, et du coup qui contraste vraiment avec toutes les musiques qu'on pouvait avoir avant, dans les jardins, t'as la petite musique un petit peu enjouée, tu vois, un petit peu sympa, c'est des musiques légères dans les environnements beaux, et dans des lieux comme les abysses, donc déjà il n'y a pas un son et on entend juste le son de nos pas en fait qui résonne dans
le vaisselle qui tombe.
Ouais. Et dans Deep Nest, là c'est plutôt t'as des petites décordes, je sais pas, vachement oppressantes que t'entends.
Ouais, t'as des petits chuchotements, les trucs. Ouais, tu vois vraiment que t'es dans un espèce de truc qui grouille, tu vois. Enfin, je trouve que ça réussit vachement à recréer. Enfin, je sais pas si vous aimez bien les insectes dans vos vies, tu vois. Mais je sais que moi quand j'étais gamin, tu vois, les araignées ça me faisait un peu peur. Une fois j'avais vu un cocon éclaté avec plein d'araignées qui étaient sorties comme ça. Et tu ressens que ça grouille comme ça. Et je trouve que c'est assez fort finalement d'arriver à te faire ressentir ça. Surtout que tu t'enfonces vraiment de plus en plus dans l'inconnu. C'est une zone qui est assez grande et qui est vraiment dans le bas côté du monde, quoi. Et voilà, ça marche très très bien.
En plus, ouais, moi, Deep Nest, j'étais arrivé un peu en fin de session. Je me disais, bon, je vais essayer de trouver un banc. Et je me suis retrouvé à Deep Nest. Et une demi-heure après, j'étais en boule. C'est il est où le banc, tu vois. Je cherchais. C'était
surtout
vraiment.
Que tu peux y retrouver sans avoir acheté la lanterne.
Oui,
parce qu'elle n'est pas obligatoire. Tu peux t'y retrouver vraiment dans le noir quasi total. Ouais. C'est très difficile. T'as juste une petite lueur autour de ton personnage, mais tu vois à peine les monstres qui t'arrivent sur la gueule. Donc c'est vrai que c'est extrêmement flippant. Ouais. Bah, de toute façon, les insectes, hein, on a tous, je pense, une espèce de peur un peu primaire. Je pense que c'est limite, tu vois, instinctif. Ça doit remonter à des milliers d'années. On sait qu'il y a certains trucs, faut pas marcher dessus, faut pas mettre la main, faut pas toucher. Et ce qui est génial, c'est que dans leur direction artistique, ils sont parvenus à ne pas faire un jeu d'horreur, mais un jeu qui reste mignon parce qu'ils ont un style très cartoon. Et la plupart des insectes, au début, tu les trouves mignons. Dès qu'ils se mettent à parler, t'es fan d'eux instantanément. Ouais, ouais. Alors que parfois, quand tu utilises le Dream Nail, tu sais, t'as l'espèce de petite girafe là qui a tout le temps la tête en train de dire. Et quand tu peux avoir le Dream Nail et que tu peux entendre ses pensées, elle te dit il a l'air délicieux ce petit truc, et elle a envie de le bouffer. Alors que toi, tu croyais qu'elle était toute mignonne et toute gentille. La banquière, elle se barre avec ta thune. Enfin, il y a plein de petits personnages comme ça qui sont très marquants. Et tu parlais du sound design, on peut peut-être parler des voix rapidement, qui sont vraiment un truc spécial du jeu, quoi. Chaque personnage, en fait, il parle pas, enfin, il parle, mais c'est du yaourt, hein, c'est pas une langue qui existe, et ça a été doublé par des gens. Tu vois, j'ai longtemps pensé que c'était des backers, parce que je m'étais dit que c'était peut-être une incentive pour donner plus d'argent, mais en fait, non, hein, c'est vraiment leur collègue de bureau, un voisin, le mec qui s'occupait du marketing. Il y a la mère d'un des deux qui a fait, il y a sa femme de l'autre qui lui a fait des personnages, et du coup, ils ont fait des bruits comme ça, et c'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure avant l'épisode, parce qu'il y a certains bruits, tu vois, on les reconnaît tout de suite, et ça devient. Soit ça peut être extrêmement oppressant, soit ça devient complètement ridicule, genre le Dung Defender, le fameux chevalier bousier. C'est incroyable ce personnage là c'est vraiment un des boss les plus charismatiques, pas le plus dur, mais qu'est-ce qu'il est charismatique quand même.
Ouais, ça tu disais c'est une conversation autour d'une bière, mais la bière elle était en Australie probablement, donc eux en fait ils avaient qu'à sortir et soulever tu vois une
bonne
terre,
il y avait tous dans ce coin du monde.
Je me rends pas compte à quel point ça peut être différent. Je suis pas allé en Australie, hein, personnellement. Ils sont à Adélaïde.
Les quelques Australiens que j'ai rencontrés m'ont toujours dit, voilà, là-bas, c'est, enfin, nous, c'est la vie sauvage, tu vois. Tu vas aux toilettes, t'as une vipère dans tes chiottes.
Après, ça dépend où tu vas. Forcément, si tu vas genre à Sydney ou à Melbourne, bon, ça va, tu vois. Mais tu peux quand même avoir des cas dans des jardins, tu vois, en périphérie un peu de Sydney. La redback, c'est l'araignée qui a un dos rouge, qui, s'il te mord, tu vas à l'hôpital, tu vois. Ça, c'est une réalité quand même. Et puis t'as des
kangourous qui se battent dans ton jardin, des trucs comme ça.
Ouais, tu peux, dès que tu t'éloignes un peu.
En vrai, en plus, j'ai déjà vu des kangourous se battre, mon gars, c'est énorme.
Ah, tu vois, ça y est, on est revenu aux vidéos YouTube. 5 secondes, la terre est plate, les lézards.
Ils se sur leur queue et ils donnent des coups comme ça.
J'ai vu aussi, moi aussi. J'ai YouTube aussi.
Tu connais, toi?
Je connais pas mal. Non, mais j'ai vécu sous les tropiques, j'ai vécu à La Réunion, et c'est vrai que les insectes, tu vis avec, quoi. Genre, typiquement, les araignées, on t'apprend très vite que justement, il faut surtout pas les agresser. Parce que les grosses, c'est forcément les femelles, parce que les mâles dans le royaume insectes, ils sont souvent microscopiques. Et si tu les tues et qu'elles ont une poche d'œufs, je l'ai déjà vu, ça fait comme tu racontes. C'est vraiment, ton sol devient tout noir et t'as une espèce de rayon qui. Là, même si t'es pas arachnophobe, t'as peur.
Ouais, j'avais discuté avec un Mexicain qui lui aussi était dans une zone plutôt campagne, tu vois, et il y avait vraiment des araignées venimeuses, tu vois, que tu pouvais voir. Et pareil, il disait la règle, c'est de ne pas les écraser. C'est si elle est dangereuse pour toi et que tu veux t'en débarrasser, vaut mieux la brûler, tu vois. Si tu peux la brûler, brûle-la, parce que il y a tous ces
Kill it with fire.
Parce que c'est vraiment ça. Si tu l'écrases,
je suis en train d'imaginer des gens avec des lance-flammes maintenant. Tu veux...
Parce que si tu l'écrases, t'as ce nuage d'araignées qui se répand, quoi.
Eh ben écoutez, merci Ushuaïa Nature.
Non, mais c'est ça, c'est cette peur un peu primaire, tu vois. Tu vois un cafard chez toi, tu sais que c'est dégueulasse, tu sais que c'est sale, tu sais que c'est pas bon et que ça invite pas. On sait qu'on finit tous à la fin bouffés par des vers, donc de toute façon on a cette peur, hein, c'est vraiment des insectes. Non, mais c'est vrai, j'y ai pensé parce qu'ils ont pas trop été dans le délire. Ils auraient pu être beaucoup plus dégueulasses. Ils ont quand même réussi à se limiter à rester dans le côté un peu cartoon mignon, parce que sinon ça serait devenu un jeu extrêmement
D'ailleurs moi je le vois parce que j'ai joué beaucoup avec les enfants à la maison à Hollow Knight. C'est vraiment un des jeux auxquels ils ont plus appris accroché, tu vois, et ils ont fait, bah, j'ai fait quasiment tout le jeu avec eux qui me regardaient, et c'est vrai que, bah, ils adorent l'univers. Le petit, il me prend la Switch, tu vois, et il regarde le glossaire avec tous les machins, il les connaît par cœur, tu vois, parce que, bah, ils ont cette espèce de fascination, parce que c'est un univers qui est très riche, qui est vaste, tu vois, et puis, voilà, ils arrivent à s'imprégner de tout ça, mais c'est mignon, comme tu le dis, et du coup, bah, il y a un charisme, en fait, dans le design des persos et de tous les ennemis qui fait que ça fonctionne super bien, quoi.
Ouais, comme on a pu le dire, c'est vraiment des univers fascinants aussi, et, et pas ceux du jeu, tu vois, mais ceux de la vraie vie, quand tu vois un peu, t'as un peu des sociétés insectes, entre guillemets, des fonctionnements qui n'ont rien à voir, ou bah, l'exemple courant, c'est les fourmis, tu vois, ou d'une race de fourmis à l'autre, t'as des choses qui n'ont rien à voir, donc c'est vraiment, t'as une vraie richesse à exploiter dedans.
On salue Bernard Werber, hein, si tu nous écoutes, j'espère, vous avez lu vous aussi les fourmis quand vous étiez ado, en tout cas, moi j'avais lu ça.
J'ai lu le premier tome,
et bien pas moi.
C'est vrai, t'as pas lu
Non, j'ai pas lu, bah, j'en ai beaucoup entendu parler,
hein. C'est vrai que ça fonctionne bien, bah, c'est la même chose en fait, hein. Il étudie la société des fourmis, il t'explique comment elles communiquent, etc. Et c'est des trucs, forcément, tu peux y penser un peu en jouant à Hollow Knight.
Bon, on va peut-être passer maintenant un petit peu au jeu, maintenant qu'on a passé tout ce temps-là à faire notre planète. Welcome to Planet Earth. Je sais pas si vous avez regardé très bon documentaire sur Netflix que je vous recommande d'ailleurs.
Qui ne sponsorise pas l'émission encore, mais on est en discussion avec eux. Hein.
Donc, Hollow Knight, bah, c'est un Metroidvania. C'est vraiment, on en discutait un petit peu quand on préparait l'émission, c'est vraiment un jeu qui rentre vraiment dans le canevas du Metroidvania traditionnel 2D, et c'est assez intéressant parce qu'on disait que, bah, finalement ils n'ont pas un gros background en termes de création de jeu. Il y a un mec qui vient de l'animation, il y en a un autre qui faisait un petit peu des jeux de son côté, mais c'est pas des gens qui ont une grosse expérience, c'est pas ces gens-là qui se sont lancés dans l'indé en fait, qui ont quitté l'industrie parce que ça faisait 10 ans qu'ils bossaient sur des AAA et qu'ils en avaient marre, c'est pas du tout ça. Et du coup en fait on se disait que, bon, ce jeu-là, c'est une vraie réussite, on va pas épiloguer trop longtemps dessus, mais ce qui est incroyable, c'est de dire que ces gens-là qui n'ont pas énormément d'expérience, ils ont su faire un jeu qui est juste incroyable, et en fait, c'est, à mon sens, parce qu'ils se sont basés vraiment sur un canevas qui est très 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 précis, vraiment le Metroidvania, voilà, les zones, les boss, les pouvoirs que tu débloques, les petits espaces qui te manquent parce que tu peux pas sauter assez loin, et tu sais que tu vas avoir le double saut, donc c'est un jeu quand même qui est très classique, finalement, dans sa construction, et encore une fois, c'est pour ça que moi, au début du jeu, bah, au bout d'une dizaine d'heures, j'étais pas impressionné, j'étais vraiment, bah ok, c'est un Metroidvania, et même un Metroidvania où je me disais, tiens, faut 30 heures pour le finir. Qu'est-ce qu'un Metroidvania peut bien me raconter sur 30 heures? Parce que quand on regarde, je sais pas, Super Metroid, c'est, je sais pas, c'est 8 heures, c'est un truc comme ça. Castlevania Symphony of the Night, ça doit être une douzaine d'heures. Donc c'est pas des jeux qui sont très longs, habituellement, qui sont très très rythmés. Et là, à l'inverse, Hollow Knight, c'est un jeu qui a un pacing, qui a un rythme beaucoup plus lent.
Et bah, c'est dû à tellement de choses, en fait. Parce que déjà, une des règles dans le Metroid-like ou Metroidvania, c'est la présence d'une carte. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est vraiment la carte qui se construit au fur et à mesure. Ça fait partie un peu de ces règles codifiées maintenant. Et là, ils ont essayé de trouver une alternative. Et en fait, au début, quand t'arrives dans une zone, c'est assez flippant parce que t'as pas de carte. Ouais. Donc, tu sais pas où tu vas pouvoir te reposer. Tu sais pas où tu vas avoir ton petit banc pour t'asseoir. Et il faut que tu trouves Cornifex, qui est un cartographe auquel tu vas lui acheter sa petite carte. Et après, c'est toi qui vas la remplir au fur et à mesure. Donc, ils ont essayé déjà de proposer une légère alternative sans complètement transformer les codes. Et forcément, bah, pour pas mal de joueurs, c'est un jeu qui est assez austère parce que, effectivement, bah, t'es paumé, tu sais pas où tu vas, tu comprends pas ce qui se passe et on t'a rien dit sur l'histoire.
Ouais,
donc, c'est pas la meilleure First Hour expérience de l'univers, loin de là. Et moi, je comprends qu'il y a un tas de gens qui aient été lâchés parce que bah, tu peux complètement passer à côté de toute cette richesse-là tant que t'as pas compris un petit peu ces règles-là. Et eux, quand ils ont construit le monde, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils ont pas essayé justement, ils ont essayé de coller au Metroid dans quasiment tout, sauf cette histoire de construction de monde et de level design, parce qu'ils se disaient, ben, on veut que le monde il soit à peu près cohérent, et que s'il y a un banc à cet endroit-là, il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait du sens dans le monde, et c'est pour ça que des fois, toi tu vas te balader et tu vas tirer la langue, parce que tu te dis, oh, il y a plus de banc, ça fait 20 minutes, si je meurs c'est foutu, je reviendrai jamais, et donc forcément, ben, il y a des passages comme ça assez durs, mais c'est parce qu'ils ont une culture jeu vidéo qui remonte à très loin, et qui viennent vraiment de ça, et je pense que ce que tu voulais dire tout à l'heure pour le changement de partie, c'est que, ok, ils n'ont pas d'expérience en tant que créateurs de jeux, par contre ils ont une culture vidéoludique qui est vénère, et ils ont surtout un sens de leur observation et du rétro-engineering qui est assez vénère.
Bah, c'est juste l'occasion de citer leurs influences, où eux c'était alors pas que des Metroid, mais quand même des jeux un petit peu à la 2D, un peu en side-scroll. Il y avait Zelda 2, Metroid, Faxanadu, un jeu NES, il me semble, je regarde Excel, tu vois, toujours dans l'espoir qui connaissent.
C'est du Jap, ça, c'est même pour moi c'est vieux. Ça.
C'est du Jap.
Et puis Megaman aussi, le 10 et le 0.
et puis un DuckTales, parce que du coup il y a du Pogo, donc forcément non mais c'est vrai qu'il y a plein de c'est vrai que c'est un jeu qui respire vraiment le côté old school. Parce que dans ces contrôles c'est très basique hein. Tu sautes, tu tapes et tu peux te soigner, voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe pendant très longtemps, et après ça s'enrichit, mais ça se sent par contre dans beaucoup d'aspects. On en parlait juste avant, la rigueur qu'on peut avoir dans les sauts, bah, ça leur permet plus tard de faire des niveaux de plateforme complètement vénères, comme le White Palace ou des choses comme ça. Et même le système d'attaque, il est très basique, mais en fait il donne beaucoup de liberté et ça permet des combats de boss assez dantesques, parce que petit à petit ils vont monter la complexité des affrontements, et ça donne des choses plutôt intéressante, quoi.
Et pour en venir un petit peu sur le côté progression fil rouge, au début t'es quand même un petit peu guidé, t'as Hornet en tout cas, alors pas forcément dès la première heure, mais dans la première partie du jeu, tu vas croiser Hornet au moins deux, peut-être trois fois dans un espace de temps assez restreint au final. Et c'est vrai qu'il y a ce moment, je crois que ça doit être quand t'arrives à la Cité des Larmes, ou juste avant les mantes religieuses il me semble, et elle te lâche en fait, c'est vraiment, t'as le moment où elle part, et tu dis bon bah, je vais la revoir dans une heure ou deux, comme toutes les fois, et en fait tu vas pas la revoir potentiellement plus du tout du jeu, si tu fais la fin basique, je crois.
En fait oui, non, tu la croises quand t'arrives à la Cité des Larmes, parce qu'il y a la grande statue de Hollow Knight, c'est là où tu découvres un peu l'histoire. À partir de là, tu vas aller dans le, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais la zone...
Sanctuaire des âmes.
Ouais, le sanctuaire, non, pas le sanctuaire des âmes, là où tu chopes le Dream Nail.
Ah bah là tu l'as plus vu depuis un moment déjà.
Ouais, c'est ça, et en fait tu la vois, il me semble que tu la vois à ce moment-là quand t'es à...
Ouais, elle te lâche, genre tu vas apprendre la vérité.
Et après par contre, tant que t'es pas allé aux confins du royaume tout à l'est, tu la vois plus, et en plus de ça, t'es pas obligé de la revoir, puisque tu peux très bien finir le jeu sans elle en fait.
Et c'est vrai que moi j'avais le souvenir un petit peu de dire bon bah elle est où Hornet, tu vois, ça fait 5-10 heures, je me dis c'est bizarre, j'ai pas... Parce que je le voyais un peu comme un checkpoint, tu vois. Je me disais, c'est bon, j'en suis à ce stade. Un peu comme si dans ma tête, il y avait, hop, je suis passé à 10% du jeu, 15% du jeu, tu vois. Et là, t'es complètement lâché. Parce qu'au début, c'est un petit peu dirigé pour que t'aies les pouvoirs de base. Donc...
C'est-à-dire qu'il est vraiment... Il y a beaucoup de hardlock au début. C'est-à-dire que dans le Metroidvania, on parle de ça, on parle de softlock ou de hardlock. C'est-à-dire que le hardlock, c'est tu ne peux pas passer parce que t'as pas le pouvoir. Ou le softlock, c'est normalement, tu peux pas passer. Mais il y a petit moyen, si tu sais bien sauter ou si t'as un des pouvoirs, peut-être ça peut passer. Mais bref, il y a vraiment des gros hardlock au début. Donc t'es obligé de faire là, tu dois vraiment suivre un vrai fil rouge, et une fois que tu descends, bah les mantes, t'es pas forcément obligé de les battre tout de suite, tu vas devoir aller aux Cités des Larmes, ensuite tu vas aller battre le Soulmaster, et une fois que t'as le Soulmaster, bah après c'est Cœur de Cristal, et après bah c'est vraiment le jeu qui s'ouvre.
Parce que voilà, sur ce chemin, t'as récupéré quelques pouvoirs, sur ces hardlocks, t'as récupéré la griffe qui te permet de faire du wall jump, t'as dû récupérer le dash, et donc là tu parlais du truc de cristal, l'espèce de maxi boost,
c'est ça.
Et donc ça, c'est des chemins un petit peu obligatoires à ce stade du jeu, mais après tu peux, il y a les fameux Dreamers, donc les trois entités que tu dois tuer pour faire le saut, et ça c'est un peu en fonction...
C'est marrant parce que d'ailleurs ils te les font vraiment popper sur ta carte, c'est-à-dire que t'as pas la carte entre guillemets, t'es du vide quoi, mais t'as trois petites têtes d'insectes, et tu sais c'est ok, c'est là et là que je dois aller pour finir le jeu entre guillemets. Mais c'est vrai que moi à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai abandonné ma première run, parce que je me sentais un peu complètement submergé, je me disais mais par où je vais aller, ça va être super long. Et en plus, c'est au moment où tu récupères le Dream Nail, et c'est la première fois que je te dis « Hey, il y a des collectibles maintenant, il y a plein de petits trucs que tu dois récupérer. » Et en fait, j'ai vraiment posé ma manette, et j'ai fait « Vous me donnez des collectibles, là, maintenant, vraiment, le jeu, c'est ce que tu veux que je fasse ?»
Ça, c'était chiant.
Et ça m'avait un petit peu gonflé à ce moment-là, et je pense que j'avais un peu give up, j'avais un peu abandonné à ce niveau-là.
Parce que du coup, ça devient une expérience assez différente, où tu vas vraiment explorer. Parce qu'au début, on dit, il y a ce côté un peu Metroidvania presque scolaire, tu vois, où t'as un peu cet émerveillement des différentes zone et tout, mais tu fais ah bah je vais là, le jeu il me fait aller là, et après le jeu il te fait aller nulle part, et c'est vraiment à toi d'avoir envie d'explorer des zones où t'as pas la carte, il va falloir trouver le cartographe, et puis même une fois que t'as la carte, tu sais toujours pas forcément où aller, tu vois.
Ouais, et puis t'es arrivé dans une zone, mais est-ce qu'elle va t'être utile?
C'est exactement ça.
La première fois que tu vas à Deep Nest, t'es là, c'est bien, mais à quoi ça me sert? Pourquoi
tu vas croiser le rêveur au fond, tu vois, tu dis bon c'est a priori peut-être par là qu'il faut y aller, mais c'est surtout comme tu peux aller à plusieurs chemins avant, tu dis est-ce que c'est le bon moment d'y aller, parce que t'as déjà des niveaux de difficulté qui peuvent être un petit peu différents, des ennemis qui peuvent être un peu vénères. Voilà, Deep Nest, ça peut quand même être un petit peu impressionnant.
Il y a des boss optionnels, il y a Nosk notamment qui peut faire un peu peur. À un moment, tu vas te balader, tu vas tomber sur une ligne de métro. Parce
le tram là.
Ouais, alors espèce de tram métro.
Scarabée ou je sais plus trop comment.
Alors t'as le Scarabée qui est le métro entre guillemets.
T'as le gros tram où faut trouver un ticket.
Que tu trouves très tard dans le jeu d'ailleurs, parce que là les enfants sont en train de le refaire. Ils me disent et c'est quand qu'on trouve le ticket? Je fais oula, vous n'êtes pas
le ticket, il est dans Deep Nest. Donc en fait tu peux y aller très tôt, tu bats les mantes et hop t'y vas.
Oui, effectivement.
Et c'est ça en fait qui est assez fou avec ce jeu, c'est parce que au départ ils l'ont construit vraiment comme un Metroidvania très très classique, comme tu dis scolaire. Je pense que c'est vraiment le bon terme. C'était, tu vois, ce qu'on avait noté nous sur notre petite fiche. Fish, c'était le premier de la classe. C'est-à-dire qu'il fait tout très très bien, mais il, voilà, il faisait tout comme on lui avait demandé de faire. Il n'y avait pas de fioritures, pas de folie. Tu vois, il débordait pas des trucs pour le coloriage. Ouais, il colorie très très bien. Mais à un moment, il se lâche complètement et il s'est dit, bon, bah en fait, tous nos niveaux, ils sont imbriqués, donc fuck it, débrouillez-vous. Parce que moi, je me suis rendu compte dans ma première partie versus les autres que j'ai faites après, c'est, bah en fait, tu peux aller dans n'importe quel endroit. À l'instant où tu récupères les griffes de Mantis et que tu peux commencer à t'accrocher sur les murs et que tu peux commencer un peu à arnaquer le jeu, c'est foutu, tu vas où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, quasiment.
Et puis c'est un jeu en plus, toujours sur le côté l'aventure, l'exploration, c'est un jeu qui va te cacher des PNJ à plein d'endroits, tu sais pas forcément s'ils seront pertinents, il y a des PNJ que tu vas revoir, tu parlais de Zot, t'as aussi le mec avec le masque,
Quirrell,
solaire.
non, Quirrell, ça rien à voir.
Le chevalier oignon. Non,
ah oui, non, c'est encore un autre.
Mais y a, et puis la zone cachée de la ruche, enfin il y a tout ces, vraiment toute cette richesse.
Tu pètes un mur, enfin moi je me souviens vraiment, j'étais choqué quand j'avais récupéré la griffe donc des mantes et tu montes en haut du jeu donc dans la croisée des chemins ou je sais plus, truc oublié, et tu casses un mur et bim, là t'arrives, tu sais, dans le comment ça s'appelle, Halloween Cliff, je crois que ça s'appelle.
Ah oui, le niveau avant le début du jeu.
Voilà, c'est ça, exactement. Tu reviens là et tu sais, c'est derrière un mur, donc tu te dis, enfin, personne m'a emmené là, c'est vraiment moi en fait, j'ai exploré, j'ai tapoté. Alors tu dis, en fait, si, ils m'ont un petit peu emmené là parce qu'il y avait un petit faisceau lumineux et puis il y avait un petit coffre, donc t'avais envie de taper sur le coffre et puis tu vas te rendre compte que ça tape un peu le mur, donc c'est quand même bien foutu, mais ça va vraiment t'emmener, t'as vraiment cette surprise, pareil quand t'es à la Cité des Larmes, que t'as une espèce de station de métro et que tu peux aller aussi sur la bordure du royaume, tu vois, bah c'est juste en passant en dessous dans un petit...
Tu peux aller sous l'eau et exactement, tu peux pas le deviner, le deviner naturellement qu'il y a ça, et puis sinon il y a encore d'autres chemins, alors tu peux passer par les égouts. Enfin, y a énormément de chemins, il y a beaucoup de passages cachés et de passages secrets qui se révèlent, il y a beaucoup de zones optionnelles, il y a beaucoup de boss optionnels également, toute la zone à Halloween Cliff, là, les collines hurlantes dont tu parles, je sais plus si c'est exactement ça en français, c'est une zone vraiment, t'as pas besoin d'y aller, t'as jamais besoin, tu vas croiser un vieux maître qui est en train de peindre.
Ah oui, c'est top ça aussi.
Enfin tu vois, t'as les maîtres qui vont t'apprendre des trucs, t'as trois chevaliers comme ça qui vont t'apprendre des super techniques et qui ont tous un peu lâché, tu vois, ils ont arrêté, ils ont posé leurs armes et ils sont devenus autre chose.
Et après tu apprendras que leur maître c'était la petite mouche Rapia qui veut te vendre des trucs.
C'est Sly.
C'est génial ça. Enfin, c'est, moi je pense que ça c'est vraiment le truc du jeu, c'est que tu vas de surprise en surprise quoi. C'est toujours un petit truc qui va te mettre un peu la banane parce que tu dis, ah bah il y a ça, ils ont pensé à ça. C'est comme quand tu tombes sur le fabricant de masques, tu vois. C'est vraiment un truc, tu dis, mais ok, bah ils ont pensé à mettre ça et ils te donnent pas vraiment plus que ça. Et c'est
quand
ça
tu,
qu'ils font.
Quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait il y avait une civilisation à une époque avec toute une culture autour des masques et que ça voulait dire des trucs et tu te dis, what, c'est quoi votre jeu, qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu croises la voyante la première fois, t'apprends que ça, son espèce à elle, c'était la seule qui était encore restée fidèle à Radiance, tu vois.
Il y a
toute
les
une légende comme ça.
Là,
ouais,
c'est,
les espèces
c'est
de
des papillons de nuit en plus.
C'est des papillons de nuit, donc c'est assez rigolo.
C'est ce qu'on voit le plus attiré par la lumière en général.
Et donc forcément eux ils étaient complètement fanatiques de ça. Tu vas découvrir donc effectivement les Sly. Tu peux également passer le Dream Nail sur la femme de Cornifex et t'apprends que elle aussi c'était une guerrière, une aventurière et finalement elle s'est posée pour comme ça, c'est elle là qui devant ses maps.
Alors on avait préparé une
petite interlude.
Oui,
j'en ai
plein.
Non mais parce que justement les voix des personnages ça les définit vachement et tous, dès que tu commences à gratter un petit peu et que tu as le Dream Nail, tu vois le passage avec la fangirl qui devient amoureuse de Zot parce qu'elle croit que c'est toi. Parce que tu l'as sauvée, c'est génial. Ce personnage-là, elle fait des fanfictions chez elle, tu vois. Elle a un petit journal où elle écrit tout ce qui lui est arrivé. C'est un personnage qui est super mignon. T'as le petit détail, tu sais, quand tu t'assois à côté d'elle à Dortmos, elle rougit au bout de quelques secondes parce qu'elle est toute gênée. C'est des petits détails comme ça qui sont ultra mignons, mais moi, ça m'a laissé des traces comme ça.
Ça, c'est le travail des animateurs, quoi, parce que c'est vraiment là-dessus. C'est sur comment les personnages se déplacent, c'est quoi leur mimique en fait. Et ça, vraiment, il y a tout un petit travail extrêmement subtil là-dessus et qui fait qu'on s'attache énormément à tous ces petits personnages quoi.
Moi le moment que j'avais adoré c'est quand tu bats les Mantis Lords et en plus les mantres jeux c'est un peu des, tu compenses un peu plus guerrier plus ou moins. Alors, c'est pas de la noblesse mais il y a de la noblesse dans le combat, tu vois, c'est un peu plutôt dans
le côté
chevalier.
Il y a plein de lances, des trucs, enfin, tu sens que c'est un peuple guerrier.
Ouais, c'est ça. Et quand tu bats les Mantis Lords, qui au passage comme tu le disais c'est eux en fait qui avaient conclu un pacte avec le roi qui bloque l'accès à Deepnest, donc c'est le peuple guerrier, tu vois, qui est collé à Deepnest, donc déjà
c'est
en termes
Night Watch.
Déjà voilà.
C'est exact.
Déjà en termes de level design,
le petit, quand tu ouvres justement le mur, ouais. Tu vois derrière, tu vois un tas de cadavres avec toutes les lances, ouais. Justement des mantes dedans. Donc il y a vraiment ce détail là. Ouais. Mais vas-y, continue.
Et ouais, et donc quand tu bats les Mantis Lords, là t'as toutes les. Donc t'avais plein jusque là, plein de mantes religieuses contre lesquelles tu te battais, qui t'attaquaient, qui étaient
en plus pas faciles, qui sont un ennemi, qui sont costauds.
C'est assez costaud,
qui sont assez vénères. Et là elles s'inclinent devant toi quand tu passes devant. T'as pu aller taper, t'as pu aller te battre contre elles parce que t'as battu leur chef et du coup ils s'inclinent quand tu passes.
Ouais, t'as la marque de respect et là tu peux balader dans le truc et tu les vois et voilà, ils te respectent. Et c'est vrai que c'est un moment, enfin, c'est une vraie petite surprise parce que ça donne encore plus de sens finalement à cette tribu guerrière qui s'est dit ok, ce mec là nous a abattu les chefs, donc lui on se tait, tu vois, ça sert à rien d'essayer le test, tu vois.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est, ils méritent notre respect et du coup, bah, tu comprends que eux ils fonctionnent d'une certaine manière mais qui est pas forcément celle des autres. Et ça donne, ce qui est cool, c'est que ça donne l'idée d'un monde qui fonctionne, que tu sois là ou pas. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que souvent, les mondes, quand tu les crées autour de ton héros, ben, en fait, ça devient juste un prétexte. Tu vois, tu vas avoir le PNJ qui va juste être là pour te filer la quête. Tu vois, tu vas avoir un personnage, il est juste là pour te filer le bâton ou l'épée spéciale du bah voilà, va tuer le méchant parce que le monde a été créé pour toi. Alors que là, c'est toi en tant qu'explorateur qui arrive dans un monde qu'on a rien à cirer, que tu sois là ou pas. De toute façon, c'est déjà la merde, tout est détruit. Que tu sois là ou pas, bon, a priori, il y a Hornet qui est là, elle, vraiment dans un rôle plus héroïque où sa mère lui a donné comme mission de sauver le monde un peu en gros, et parce qu'en plus c'est un personnage qui a une histoire super fascinante, aussi, hein, ça va être cool, Six Song là ça va être trop bien, et elle a un rôle plus héroïque classique, alors que toi t'es vraiment le ce côté holo vide en fait, même si toi tu t'appelles pas Hollow Knight, t'as ce côté, tu viens du vide au départ et donc t'es cette coquille vide. Ce qui est pas mal, c'est que ça fait évidemment un peu méta, ça fait référence aux personnages de Link qui sont, tu sais, des coquilles vides, c'est des personnages dans lesquels on met rien, comme ça les joueurs ils peuvent tout y intégrer, et du coup bah ils ont créé leur histoire de comme tu es tout vide, bah tu es incorruptible. C'était ça un peu l'histoire du truc derrière. Je me suis perdu tout seul.
Moi je te suivais, je t'écoutais, j'étais là, oui, Link, pourquoi pas, allons-y, Dark Link.
Il y a toujours moyen de rebondir, on dit, mais si lui c'est une coquille vide, le monde lui n'est pas, parce que pour en revenir à ce sens un petit peu donné au level design, t'as aussi la cité des larmes, où là il pleut toujours, et au-dessus t'as un lac, en fait, il y a un sens, et ça c'est un truc, moi j'avais pas tilté, tu vois, jusqu'à ce qu'on me le dise, moi c'est pas quelque chose que j'avais remarqué, mais c'est quelque chose que tu peux complètement voir. Un truc par contre que j'avais remarqué, qui est très simple, hein, mais c'est quand t'arrives, c'est au niveau du forgeron. En fait, lui, sa zone, enfin la zone, elle est collée à la zone des champignons. Et sur les murs, tu commences à voir un peu des spores, des champignons. Et dans ta tête, tu dis, ah oui, c'est parce que derrière, il y a les champignons. Donc t'as tous ces petits indices visuels en fait qui te donnent des infos sur le monde qui est autour de toi. Et il y a vraiment cette cohérence.
Mais mais du coup, ça, c'est vrai que les transitions de niveau à niveau, elles sont particulièrement bien faites. Et toi, en plus, comme chaque niveau d'un point de vue esthétique est très marqué, vraiment, il y a des couleurs. Ouais. Tu sais que chaque couleur. Ouais. Quand tu vois du rose, bon bah c'est les cristaux. Quand tu vois du bleu, c'est tel endroit. Quand tu vois du vert, c'est tel endroit. Le fait de voir les couleurs, ça te permet finalement de te repérer. Mais ça demande effectivement un effort au départ pour, on va dire, toi, t'immerger dedans, et bah, le jeu le fait pas si bien que ça. Hein. D'ailleurs, on l'a vu avec les mises à jour, ils ont agrandi la zone dans laquelle Cornifex il chante pour te dire à quel endroit t'es. Ils ont mis ces petits bouts de papier qui traînent un peu plus loin pour que tu puisses voir un peu plus facilement les choses. Donc, ils ont même eux-mêmes réalisé qu'il y avait des petits défauts ici ou là, et ils ont essayé au fur et à mesure de corriger tout ça.
Il y a des choses qui m'ont déstabilisé, c'est-à-dire que la première fois, je savais pas qu'on pouvait taper par terre, par exemple, je savais pas qu'on pouvait sauter et taper vers le bas. Du coup, j'avais été bloqué dans ma première partie sur les champignons parce que je pouvais pas. Je comprenais pas en fait, tu sais, tu rebondissais, mais en fait faut taper pour
rebondir suffisamment, ouais.
Et en plus moi j'y ai joué vraiment à la sortie du jeu, donc il y avait rien sur internet, il y avait très 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 peu d'infos, donc je trouvais pas de solution. Et puis il y avait aussi, tu vois, des choses, tu sais, dans l'endroit il y a des espèces de petites méduses, vous savez, il y a une espèce de barrière noire à un moment.
Ah oui.
Et ça c'est vrai que je comprenais pas, je me disais bon logiquement c'est la zone dans laquelle je dois aller vraisemblablement, comment je désactive cette barrière. J'ai même, je crois, tu sais, les méduses, je crois que tu peux les taper et tu sais elles te refoncent dessus pour exploser. Ouais. Donc j'ai essayé d'en faire une pour qu'elle tape la barrière.
Ouais, j'ai fait la même.
Et tu vois, tu te dis, en fait non, c'est un pouvoir que t'as beaucoup plus tard, et bim, tu pourras revenir à ce moment-là, quoi.
Il l'avait glissé là, ce niveau, exprès pour embêter les gens. Il disait en gros pour vous dire vous faudra revenir un jour, peut-être pour vous donner vraiment une sens du mystère qui vous attend, vous allez devoir revenir ici un jour.
Et pareil, quand j'avais chopé le cœur de cristal qui te permet de faire le Superman, t'as vraiment une bonne boucle de level design, c'est-à-dire que tu remontes dans le mont cristal, hop, tu utilises le pouvoir, et hop, tu ratterris dans la zone de départ, donc à Turfmouth, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Et le problème, c'est que que bah, ce pouvoir, tu peux l'utiliser nulle part après. Il te faut aussi la lanterne pour que tu puisses l'utiliser après pour pouvoir continuer vraiment le jeu, quoi. Et du coup, bah, moi aussi, j'ai passé une heure et demie à errer dans le jeu, tu vois. Je ne savais pas quoi faire avec ce pouvoir.
Ah oui,
et...
non, non. La lanterne, t'en as besoin pour aller dans les cavernes de cristal. Soit la lanterne, soit le saut vers le bas.
Non, non, t'en as pas besoin pour aller dans les cavernes de cristal. Tu as besoin des. Bah, alors, effectivement, t'as besoin du saut vers le bas, ça c'est sûr.
Mais en fait, il y a deux entrées.
Mais t'as deux entrées, effectivement.
Ouais,
mais
c'est
du
soit
coup,
l'un, soit
l'autre. Mais après, la lanterne, t'en as besoin pour aller ailleurs, pour continuer, pour aller dans le truc des rêves, là, avec le papillon, en fait, pour récupérer le Dream Nail.
Ah ouais, t'as besoin de la lumière, là ?
Bah, en fait, t'es obligé de passer par l'endroit, justement, du bas pour pouvoir y aller.
Ah, d'accord, ok.
Moi, je sais plus, moi, général, le jeu, il est un peu trop. C'est des détails qui sont un peu trop pour moi.
Ouais, j'ai refait il y a pas longtemps, c'est pour ça.
Des coups, des choses que j'étais, qui semblent logiques complètement après, tu vois, mais le jeu m'a paumé plusieurs fois. Et je peux comprendre, justement, qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient un peu laissés de côté par le jeu, parce qu'il a ce côté, voilà, très mystérieux. Et en plus, bah, comme on le dit, même si l'univers est extrêmement attachant, en termes de narration, on est quand même, bah, c'est très à la Dark Souls, mais encore plus, peut-être, il y a moins de choses à grailler. Et on ne te dit rien du tout, tu ne sais pas pourquoi tu descends. Donc, c'est vrai que t'as pas cette force, en fait, et en plus le rythme est assez lent, qui te pousse constamment vers l'avant, et dès que le jeu s'ouvre un peu, bah, c'est vraiment à toi de te débrouiller. Quoi.
Parmi les trucs qu'ils ont rajouté, donc t'avais cité un petit peu les choses avec le cartographe, ça il me semble que ça a été rajouté après, le système de téléportation. Avec,
oui, ils ont rajouté ça.
Ouais, tu pouvais poser un checkpoint.
Mettre des points sur la carte.
Ouais,
effectivement,
des
pins
sur la carte pour t'aider
ouais,
un petit peu visuellement à te rappeler, parce que bah, comme tout Metroidvania, à un moment quand tu débloques un pouvoir, ça te débloque l'accès à des chemins par lesquels t'es déjà passé, mais après la carte elle t'aide aussi à ce niveau-là, il te montre en général un petit chemin en fait que dans une zone que t'as déjà visité, mais tu vois que t'es pas passé par un chemin.
Mais il faut le noter, parce que bah, c'est vrai qu'après nous on a nos réflexes de joueurs de Metroid-like où on se dit bon bah là j'aurais besoin du double saut, là je vais avoir besoin de tel ou tel pouvoir, donc toi s'il faut que tu le retiennes, et ça bah, ça demande forcément un effort d'investissement qui est pas toujours évident à faire, donc c'est vrai que petit à petit découvrir le jeu aujourd'hui c'est peut-être finalement plus sympa que de l'avoir fait à la toute sortie, parce qu'il s'est un peu bonifié.
Et surtout qu'il est vaste en plus, donc c'est un gros Metroidvania, mais vraiment en termes de superficie, hein, vraiment, et tu dis il y a beaucoup de petits chemins et tout, et tu peux être bah, un petit peu submergé par toutes ces possibilités-là.
Une petite chose moi que j'avais regretté, mais bon là c'est vraiment tu vois le petit truc qui manque pour que le jeu soit littéralement un chef-d'œuvre. Bon ça l'est pour Exer, mais
bien sûr, c'est
ce que je dis. Mais c'est que il y a des moments où tu trouves des espèces de raccourcis entre guillemets, des chemins qui vont lier deux zones, et t'as l'impression que ce sont des raccourcis parce que t'as peut-être débloqué un pouvoir qui mène de l'un à l'autre, mais ils sont pas pertinents en termes de level design en fait à emprunter. Quand tu le vois tu fais ah ouais cette zone elle est reliée par ça et elle est très jolie et tout, mais en fait t'y repasseras jamais. C'était juste un moment où t'es passé une fois et il y a pas eu cet effet Dark Souls 1 en fait, où tu vas prendre l'ascenseur et là tu fais ah oui ok le monde il est fait comme ça, et en plus de ça c'est un raccourci pertinent quoi.
Parce que c'est en 2D quoi, pour moi c'est ça le génie de Dark Souls hein, c'est d'avoir pu faire ça en 3D et de dire en fait bah t'as une troisième dimension qui te permet de complètement casser les distances que tu ne peux pas faire en 2D, tu peux pas faire ça alors que bah, Dark Souls bah ouais quand tu reviens à les cheveux à partir de la cathédrale
c'est
pète, une grosse claque
que là bon bah en Hollow Knight forcément des fois c'est tu vas trouver un ascenseur et pouf tu te retrouves dans la zone de base, donc ça c'est plutôt sympa, mais c'est pas aussi efficace que ça fonctionnerait. Mais de toute façon, la faiblesse du jeu, c'est finalement peut-être simplement son level design. Je pense qu'on en est à peu près.
C'est pas une faiblesse, mais voilà, c'est là où il a la bonne moyenne. Ouais. On va dire qu'il a 16 sur 20, tu vois. Mais c'est pas là
partout,
où il excelle.
Il a 19 ou 20.
C'est ça,
Et là, non. Mais bon, c'est fondamentalement pas grave. Hein. Ça reste un jeu que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai que quand on regarde vraiment certains niveaux. Bon, bah, les idées sont pas folles, et surtout, ça crée beaucoup de frustration, et on va peut-être pouvoir basculer sur l'autre partie, parce que c'est un jeu qui est extrêmement dense, hein, on en parlait avec les différents contenus qui ont été rajoutés. Ils ont rajouté des boss de rêve, ils ont rajouté les 12 ou 13 combats contre Zot qui s'énervent à chaque fois et qui redevient de plus en plus fou. Ils ont rajouté le Panthéon avec tous les dieux qui devient un boss rush impossible à terminer, enfin, extrêmement difficile à terminer. Et justement, c'est un jeu qui, dans son ADN, il est très généreux, mais en même temps, on sent qu'il y a un côté hardcore, qui est ultra présent, qui se révèle à fur et à mesure qu'on avance dans le jeu.
Bah, et encore, bon, dès le début, c'est quand même un jeu qui a une bonne petite, un bon petit marche-pied, tu vois, de difficulté pour commencer. Ça peut, c'est pas forcément évident. Les premiers boss, ça se passe pas trop mal, mais dès que t'arrives au Soul Master, là, ça commence à charger un petit peu la mule. Moi, c'est le premier boss qui m'avait pas posé des grosses difficultés, mais bon, je me suis dit, ok, on commence un petit peu à monter en gamme. Et après, c'est vrai que ça a vraiment monté crescendo
bah,
pour arriver à
Watchers,
la fin. Ouais, voilà, il y a les veilleurs effectivement qui sont bien bien énervés comme boss. Et après, c'est vrai que bah, on va terminer de, sur vraiment le jeu, c'est un mélange plateforme et combat, et il va vraiment te proposer deux épreuves ultimes avec ça. Tu vas avoir le White Palace, qui est donc le palace blanc, qui est la zone optionnelle pour arriver à aller jusqu'au vrai boss de fin qui est Radiance. Et puis enfin, bah, tu as Radiance, qui est quand même un boss. Voilà, faut.
Bah, il y a le Colisée, il y a Radiance.
Il y a le Colisée, effectivement.
Il y a les Grimm, avec l'extension, il y a Grimm et le
Nightmare King.
Ouais, le Nightmare King. Parce que moi, j'ai joué, il n'y avait pas la trad française encore, qui lui aussi est un boss ultra vénère. Et après ils se sont dit White Palace c'était trop facile, ils ont rajouté un petit passage caché qui s'appelle le Path of Pain, le chemin de la souffrance en français, qui est horrible. Enfin je veux dire, ça, tu vois, c'est, on est à un niveau de The End is Nigh, quoi, en termes de difficulté. On est vraiment dans un délire Super Meat Boy vénère, quoi. Ils sont allés très très loin là-dedans, et c'est assez surprenant parce que le jeu il est tout mignon.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que ça contraste à fond, en fait.
Enfin, ça fait un peu Cuphead, tu sais, qui était vraiment genre cartoony, super rigolo, très humoristique. Et en fait, dans les doigts, tu souffres à chaque instant. Mais c'est vrai que, ouais, moi, tu vois vraiment Radiance, pour moi, c'est vraiment ma limite en termes de difficulté. Alors, j'ai fait aussi le Nightmare King, mais je me souviens parce que je le jouais avec les enfants. Et tu sais, il y a la dernière phase où tu sautes, où tu dois sauter de plateforme en plateforme pour éviter ces derniers rayons. Et tu sais, c'est vraiment le dernier rempart, tu vois. Et je me souviens, en fait, j'étais en train de jouer sur ma Switch et je les voyais à côté de moi, les gosses qui regardaient l'écran, et en fait ils ne respiraient plus.
Ils étaient en apnée aussi.
Ils étaient
aussi,
vraiment comme ça, tu vois. Regarde, je pense qu'ils étaient aussi stressés que moi, tu vois. Donc il y avait vraiment une espèce d'intensité comme ça. Et là, bah, ils sont en train d'y jouer tous les deux. Et là, donc la grande, elle arrive, bon, elle a 11 ans, tu vois, elle va arriver vers le Soul Master. Et je lui ai dit, bon, bah déjà, c'est déjà vraiment bien ce que t'es arrivé jusqu'ici, tu vois. Déjà, elle pensait pas battre le premier boss qui est le faux chevalier, elle pensait vraiment pas y arriver. Mais là, le Soul Master, je sais pas, tu vois, je suis vraiment curieux de savoir si elle va pouvoir y arriver. La dernière fois, je l'avais un peu coachée, tu vois, parce qu'elle osait pas forcément tout le temps attaquer, du coup le combat durait longtemps parce que les boss sont hyper profonds, on pourra en parler un petit peu juste après, mais voilà, c'est vrai que ça commence à être difficile et à la fin c'est vraiment très très énervé.
Mais c'est vrai qu'on parlait de Dark Souls tout à l'heure, alors sans forcément tomber dans assez
la
dur
Dark Soulisation du jeu,
mais dans le combat on retrouve quand même certaines choses qu'on peut retrouver dans Dark Souls. Bah déjà, tu vois, les coups, tu peux pas non plus les mitrailler comme un gros taré, ouais. T'as des petits timings à respecter, et en face t'as vraiment des patterns de boss. Les boss, bah t'as des attaques, tu vas pas juste esquiver et ensuite taper, non, tu vas esquiver et ensuite voir un petit peu quand t'as une fenêtre d'attaque. Et la même chose pour le soin, parce que une autre chose qui fait un peu la caractéristique de Dark Souls, c'est que t'as une fenêtre de soin aussi. Quand tu soignes, tu sors ta fiole d'estus. Et ça va durer une ou deux secondes. Donc t'as vraiment des fenêtres de t'as des safes, tu vois, des moments safe où tu dois soigner. Et Hollow Knight, c'est pareil, il y a les moments où tu vas te concentrer pour récupérer un petit point de vie. Et en amont, c'est que pour, en plus, ça c'est une ressource aussi qui est limitée. Il faut taper pour pouvoir obtenir cette souls qui va te soigner. Donc, il faut que tu sois. Donc, pour te soigner, il faut, dans un premier temps, avoir suffisamment tapé pour pouvoir le faire. Et ensuite, il faut que tu aies la bonne fenêtre, le bon timing pour que tu puisses te soigner. C'est pas donné, quoi.
En plus, dans la mécanique de soins, c'est assez frustrant parce qu'au moment où vous appuyez et que vous commencez à maintenir la touche, en fait, comme tu as un petit délai dans lequel tu pourrais être en train de vouloir lancer un sortilège, puisque c'est le même bouton, il y a un petit moment, tu sais, vraiment une espèce de demi-seconde dans l'infinité, de flottement avant qu'il commence à charger son pouvoir. Et mais c'est ultra stressant parce que comme tu sais que toi c'est à la frame limite des fois, surtout pour la fin, vraiment à partir des boss les plus vénères, pendant Nightmare ou pendant certains boss ou Radiance, les moments où tu peux te soigner, il n'y en a pas des masses, quoi.
Ouais, c'est ça, tu dois vraiment les connaître. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que du coup moi quand j'avais fini, j'avais vraiment été impressionné par les boss, par le design des boss, et je m'étais dit, est-ce que c'était comme ça avant, tu vois, est-ce que, tu vois, Metroid Fusion par exemple, c'est vraiment un de mes Metroidvania préférés parce que je l'avais fait ado, et je me disais, est-ce que les boss étaient aussi bien. Moi dans mon souvenir je me suis dit oui, et je retourne les voir, et en fait les patterns sont pas du tout aussi intéressants, tu vois, c'est beaucoup plus répétitif, les boss se déplacent pas du tout de la même manière, il y a pas du tout aussi surtout la même lisibilité sur l'animation. Là vraiment sur Hollow Knight c'est hyper propre, tu vois vraiment dans la phase d'anticipation, et c'est là que tu te dis, bah ouais, Dark Souls est passé par là, parce que Dark Souls c'est vraiment, enfin c'est quand même des jeux d'animateurs, et bah j'en parlais je sais plus dans quel épisode, mais vraiment t'as encore cette idée de devoir lire les attaques avant qu'elles arrivent, et en fait t'as trois niveaux de profondeur, t'as le niveau 0 où tu te prends l'attaque dans la tronche, t'as le niveau 1 où tu esquives l'attaque, et t'as le deuxième niveau où c'est tu profites de l'attaque soit pour placer un coup, soit pour te soigner, comme tu disais,
ou
quoi.
Passer au travers, sauter au-dessus, passer un coup pendant que tu sautes pour rebondir, enfin il y a vraiment une marge de progression en tant que joueur qui est ultra vénère, et tu la sens, vraiment tu le ressens. Et il y a des boss, ils sont là juste pour t'apprendre des mécaniques. Vers la fin du jeu, le dernier pouvoir que tu apprends pour traverser justement les barrières noires, c'est avec le dash, tu peux traverser. Et si tu vas à Queen's Garden, le jardin de la reine, là, pour discuter avec
la reine,
Non, c'est Hera, elle s'appelle Hera, j'ai plus. Enfin bref, la reine. Ouais. Tu discutes avec la reine. T'as un boss qui s'appelle le traître, qui est juste là pour t'apprendre à lui passer au travers, parce que lui, il fait des gros dashs horizontaux ou alors il saute, et tu ne peux que passer au travers, sauter au-dessus, ça fonctionne pas bien. Et donc il est là juste pour t'apprendre cette mécanique-là.
Il y a une espèce de gros slash, tu vois, qui fait vraiment la taille verticale de la reine, donc tu n'as pas le choix, tu dois passer à travers.
Et du coup, bah, ça t'apprend, tu vois, petit à petit, chaque boss, il est là pour t'apprendre des choses, et il y en a tellement. Enfin, c'est vrai que c'est rare, des jeux comme ça, faire un boss, c'est très compliqué, mais parce qu'ils ont leur mécanique de base qui fonctionne bien, et à partir de là, ils ont essayé de vraiment enrichir le tout pour créer des nouveaux timings, des nouveaux trucs, essayer d'aller vraiment au bout de ce qu'ils peuvent proposer, et tu vois, un Nightmare King ou un Radiant, c'est un peu le Gaël de Hollow Knight, quoi. Parce que c'est des boss qui vont au bout du truc, où ils te laissent plus une seule seconde, c'est tu connais ça par cœur, ou sinon tu meurs.
Ouais, et puis surtout, il y a une vraie progression dans les mécaniques, parce que tu commences au début, t'as vraiment juste ton saut et tu tapes, et au fur et à mesure, ils vont rajouter un pouvoir, un autre, et en fait, à la fin, tu gagnes une espèce de mobilité qui est assez incroyable, parce que tu peux sauter, dasher, double saut, sauter sur les murs, tu peux faire le truc de cristal, et je me souviens, bah, pareil avec les gosses, tu vois, quand j'ai recommencé leur partie, ils voulaient que je fasse un truc, et tu sais, je commençais à dasher, j'appuyais sur le bouton, et ça fonctionnait pas, et tu sais, je me trouvais lent, mais lent, mais lent, parce qu'à la fin, t'as une vraie mobilité, en fait, et bah, tu peux aller très très loin, et te testent bah, justement dans le White Palace où vraiment là ils te mettent la dose pour te dire ouais tu peux faire plein plein de choses en fait hein.
Ouais parce que tu découvres que bah, quand tu fais un coup vers le sol, vers le bas ou que tu t'accroches à un mur, ça te redonne ton double saut, ce qui est rare dans ces jeux là et en fait tant que tu continues de taper, bah, t'as même des moments dans le Colisée où ils virent le sol, t'as juste des pics et t'es entre deux murs et tu dois te démerder contre les ennemis et t'es en l'air et tu combats en l'air et c'est complètement fou parce que tu dis mais on a viré mon sol, rendez-moi mon sol parce que t'as pas l'habitude dans ce genre de jeu, mais en fait c'est possible, ça marche.
Mais t'as une petite marge de manœuvre qui t'est offerte par le jeu grâce au charme, notamment.
Tout à fait, ouais, on n'en a pas du tout parlé.
Ouais, bah, c'est l'occasion.
Bravo, mec.
Parce qu'on parlait... On part pas de grand chose dans les combats, on va avoir en termes de les outils qui sont à notre disposition, ça va être les coups d'épée, notre mobilité et les soins.
T'as
et
en fait, tout
ça, ouais, c'est vrai que t'as les pouvoirs. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont être plus ou moins qui modulables en fait avec les charmes qu'on va ramasser. Donc la mécanique, c'est que tu as 5 slots, c'est ça à peu près.
Tu peux en débloquer au fur et à mesure des autres charmes, ils appellent ça.
Ouais, c'est ça. Et tu peux débloquer des charmes qui sont en fonction de leur force, qui vont te prendre plus ou moins de place dans cet inventaire des charmes. Et par exemple, et tu peux faire des builds en fait. Qui sont plutôt basés sur l'offensive, plutôt sur la défensive, ou alors des charmes un petit peu particuliers. Par exemple, moi j'avais beaucoup un build qui était basé sur le soin, on parlait de ces fenêtres de soins. Moi j'avais un charme qui me mettait une carapace pendant que je me soignais, ce qui faisait que je pouvais me prendre à peu près 3 coups avant qu'elle se brise en tout pendant que je me soignais. J'avais un charme qui m'accélérait la vitesse du soin, et un charme qui générait un nuage de spores une fois que je m'étais soigné. Donc tu vois, c'était vraiment un truc, pour moi
genre,
le soin...
Laissez-moi.
laissez-moi, et en plus je te fais des dégâts quand je me soigne.
Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de subtilité dans ces trucs de charme. D'ailleurs, on avait la discussion juste avant l'émission sur le côté est-ce que c'est un RPG, pas RPG. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, vous êtes plutôt du côté bah, c'est tellement fluide et flexible le côté des charmes. Pour vous, on est quasiment dans du jeu de rôle parce qu'on peut vraiment moduler son perso.
Il y a ça, effectivement, où tu peux faire un build, mais il y a aussi le côté bah, que tu vas augmenter quand même ton attaque, tu vas augmenter tes points de vie, même ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les Metroid. Donc en fait moi je considère que c'est un niveau très minimaliste mais suffisant en fait pour te faire ressentir cette gain quand même de puissance que tu as, enfin quand t'as ton pure nail, ton aiguillon parfait parce que t'as récupéré tous les petits morceaux de je sais plus quoi de minerai là, enfin tu sens quand même que quand tu tapes maintenant ça fait mal quoi.
En fait sur le plan statistique tu as des paliers, tu vois, t'as un boss, moi je me souviens j'étais tombé sur un boss qui t'envoie plein de petites saloperies qui te foncent dessus et au stade du jeu où j'en étais
à l'espèce de grosse...
Ouais, c'est ça. Et il me fallait deux coups, en fait, pour tuer les trucs. Et franchement, je voyais pas comment je pouvais le battre. Pour moi, j'étais submergé beaucoup trop vite. Et je suis allé sur Internet, parce que j'en étais à un stade, je me disais, j'ai raté un truc. Et j'ai vu que c'était un boss optionnel. Donc déjà, j'ai fait, ok, cool. Et le conseil, de toute façon, il te disait, il faut que t'aies l'arme niveau 2 ou 3 pour pouvoir one-shot les petites saloperies, quoi.
Ouais, et là, ça change complètement. Ouais. Bah, de toute façon, quand tu viens voir les mantes la première fois, c'est pareil, en fait. Tu le sais pas. Moi, je m'étais acharné jusqu'à réussir à les tuer. Mais en fait, si tu te baladais un petit peu, on te conseille Quirrell, il te dit, bah va voir le forgeron et puis va leur dégommer la tronche après. Parce que finalement, quand tu refais le combat en ayant juste le niveau 1 versus le niveau 0, le combat il divise par 2 en
et
termes
encore,
de temps.
Tu peux y aller même beaucoup plus tard parce que moi, les mantes, je les ai battus très tard dans le jeu et j'étais encore plus fort et je leur ai défoncé la tronche. Hein. First try, les mantes, franchement, pas de respect. Hein. Moi, c'est juste une grosse épée. Voilà, ça. Donc, moi, c'est vrai que tu peux y aller très tard, les mantes, puisque bah, elles ouvrent juste vers Deep Nest et Deep Nest, c'est une des trois dernières zones qui peuvent t'ouvrir. Mais c'est vrai que sur les builds, je me souviens sur sur les veilleurs notamment. Moi j'étais allé full sort, tu vois, pour vraiment genre dès que je tapais ça me rechargeait plein d'âme, mes sorts faisaient plus mal parce que je tirais tout le temps. Et c'est vrai que c'est, il y a une dimension tactique en fait qui naît avec les charmes, et encore une fois c'est un des trucs du jeu que tu ne peux pas avoir au début. C'est au fur et à mesure que t'as de plus en plus de charmes que tu dis attends, mais il y a des combos en fait, on peut mélanger des trucs. Enfin, même après le jeu j'avais vu une vidéo qui montrait tous les vrais combos de charmes que tu peux faire, où tu sais t'en as un, tu sais t'as une espèce de fusil à pompe là, ça s'appelle Nidflux, je crois.
Ah oui.
Et si tu le mélanges avec champignon, bah en fait ça sort une espèce de grosse larve qui va tomber, qui va exploser. Donc il y a toute cette petite...
Ça a été nerfé depuis. Ça a été nerfé depuis parce que ça rendait le jeu complètement broken. Ça pétait beaucoup trop de trucs.
T'as vraiment toute cette complicité, toute cette richesse là qui se découvre au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, quoi.
Bah dans le Colisée, tu disais à un moment, ils te mettent que deux parois verticales. Moi j'ai pris le charme où tu génères des espèces de petites boules de coton là qui deviennent des petites saloperies. Et du coup, moi je sautais d'un mur à l'autre, et pendant ce temps, moi mes petites bébêtes elles s'occupaient de ce qu'il y avait en dessous. J'avais vraiment ce charme pour ce moment du Colisée.
C'est ça qui est cool, c'est que du coup tu peux vraiment te créer ta manière de jouer, ouais. Vraiment en adaptant. Et puis c'est très simple, c'est vraiment très modulable. Il suffit que tu ailles sur ton banc, tu changes tes trucs, tu les enlèves. Ouais. T'as même la mécanique d'overcharme, ouais. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Tu peux, en fait, si par exemple il te reste deux points et que tu veux mettre un charme qui t'en coûte un de plus ou deux de plus, tu peux le forcer. Il va falloir cliquer plusieurs fois, et au bout d'un moment il te laisse le faire. Par contre, tu prends double dégâts.
Ouais, c'est ça.
Donc bon, déjà perdre un point de vie ça fait mal. Il y a certains ennemis qui t'en enlèvent deux, et là tu peux en perdre le double, donc ça fait deux ou quatre.
Ouais, contre Radiance, bon, ça commence à être risqué.
Ouais, voilà, faut quand même être un peu chaud pour faire ce genre de truc. Mais bon, bah ça fait partie de cette progression pour les joueurs, tu vois. Comme il y a ce côté un peu hardcore vraiment dans l'ADN du jeu, bah non seulement il y a le côté tu peux jouer en montant pas ta vie, en faisant, tu peux te rajouter des contraintes, tu vas être tout le temps en overcharme. Et ils ont même sorti un mode Steel Soul là où en gros quand t'as fini le jeu et que tu veux le recommencer, tu peux faire en sorte de n'avoir qu'une seule vie, et si tu meurs et c'est terminé.
Non mais ouais, t'as une vraie petite profondeur, t'as même le charme, tu sais, des abeilles, qui fait que là tu te recharges pas ta vie en te concentrant, mais tu sais, elle se recharge au fur et à mesure, ouais, lentement. C'est le, je sais plus comment ça s'appelle, le cœur de miel, je sais plus quoi.
Ouais, en fait, en plus les points de vie changent, oui, de couleur.
Oui, ils changent,
c'est trop mignon.
C'est
quoi.
Trop chouette, ouais, tu vois, t'as envie d'avoir ça dans ton jeu. Et moi à la fin, bah je me souviens que je m'étais vraiment dit, bah je vais battre le Hollow Knight, et je pense pas que je ferai la fin optionnelle, tu vois. Et finalement, quand j'ai battu le Hollow Knight, je me suis dit, mais je veux tout voir en fait, je veux vraiment tout voir dans le jeu, parce que je veux aller au bout, je veux aller voir dans les abysses ce truc là, cette espèce de aller récupérer.
En plus, t'as un
pouvoir.
Énorme chiseau de Metroid qui te donne le dernier pouvoir. Ça, enfin, tu vois, il y a plein de petites références comme ça à différents jeux qui sont super cool, quoi.
Sinon, ouais, la mini-chose qu'on n'a pas mentionné, mais je viens d'y penser quand Hugo le disait, mais c'est vrai que tu peux balancer tes pouvoirs, et ça aussi, c'est un choix que tu dois faire dans les combats, parce que ça t'utilise de la soul, ce qui pourrait te servir à te soigner. Donc, en combat, t'as constamment ces petits choix à faire.
Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle le risk and reward, tu vois, dans les jeux vidéo. C'est avoir une petite mécanique, mais qui sert à plusieurs choses. C'est-à-dire que tu tapes, ça va te récupérer de la vie, mais aussi du mana. Ce mana, il va te servir à prendre du temps pour soigner ou à faire un sort. Et en fait, ça, bah, dans un combat, c'est ça qui rajoute de la profondeur, parce que ça te demande de la prise de décision rapide, en fait. Ça te demande de réfléchir de manière très très rapidement, de dire quel bon choix à ce moment-là. Et c'est ça qui rend les combats si passionnants. C'est-à-dire que t'as la profondeur des boss et de tous leurs patterns qui te donnent des opportunités pour attaquer, mais t'as aussi, toi, toutes tes armes que tu as à ta disposition qu'il va falloir utiliser intelligemment. Moi, tu vois, contre Radiance, je faisais le pouvoir, tu sais, tu peux débloquer un pouvoir où tu tapes, tu fais du sort, mais en l'air, tu sais, c'est pas, il part pas de manière, je sais plus, champ des limaces, ou je sais plus ce que c'est, qui tape en l'air. Et en fait, à la deuxième phase de Radiance, quand elle réapparaît, tu peux te mettre sur une plateforme et bim, tu lui bazardes la tronche pour lui faire beaucoup de dégâts, quoi. Et en fait, bah, tu te sens récompensé parce que tu dis, tiens, je suis malin parce que j'ai pensé à utiliser ce charme-là dans cette situation-là, et ça marche bien, quoi.
Et ça, c'est plutôt rare dans les jeux, parce que souvent, quand il y a ce genre de variété, on se retrouve souvent à se dire, j'ai trouvé la bonne formule,
ouais,
et je n'utilise plus que ça.
Exactement.
Et là, ce qui marche bien avec Hollow Knight, c'est qu'en fonction des situations, c'est toi-même qui va te dire, ah bah attends, je vais expérimenter, je vais essayer autre chose. Et ça, ça marche très très bien. C'est un équilibre qui est assez difficile à atteindre, parce que bien souvent, quand les jeux, ils nous proposent comme ça une variété de pouvoirs, à la fin, tu fais chevalier de la table ronde, et puis ça marche, et puis tu cherches plus à faire autre chose, tu vois. Tu réfléchis pas plus loin au final. Tu utilises ta matéria qui marche tout le temps. Tu fais tes combats en faisant attaque, et voilà. Et là, eux, ils ont réussi à faire en sorte que ben, tu te sentes un peu challengé et tu te dis « Ah mais attends, je vais peut-être essayer autrement. Eux, ils sont à distance, je peux peut-être essayer la magie.
Exactement.
Ou alors, je vais peut-être augmenter ma portée parce que comme ça, je pourrais faire tel truc. » Et toi-même, tu vas te dire « Ah bah tiens, je vais essayer de rendre le jeu un peu plus intéressant. » Et là, bah, pour eux, derrière, c'est banco parce que toi, une fois que t'as mis le doigt là-dedans, c'est fini, quoi. Tu sais que tu vas vouloir aller au fond et tu vas essayer d'aller plus loin. Tu vas te dire, ah bah tiens, on va te mettre le Panthéon. Et en plus, ils en rajoutent à chaque fois de nouveaux DLC. Ils te rajoutent des nouveaux contenus. Ils disent, tiens, bah si tu faisais les 52 boss du jeu d'affilée en version hard pour avoir la vraie fin qui annonce le début de Silksong, enfin, c'est complètement taré, quoi.
C'est vrai qu'il y a des boss qui sont vraiment cool et qui doivent être plaisants à refaire aussi. Je pense pas que ce soit à la carte comme système, tu dois tous les enchaîner dans un certain ordre.
Non, à la carte, ça peut être. Ah,
en fait, il y a des statues. Tous les boss, tu peux te les refaire en mode normal, en mode ascension, c'est la version vénère du même boss. Et une fois que tu les as tous débloqués, là, t'as accès aux différents panthéons où d'abord tu te les tapes par série de 5, puis il y a une série de 10, et à la fin, c'est le. Je sais plus comment il l'appelait, le Aholo Panthéon, je sais pas quoi. C'est genre, t'as tous les boss du jeu, plus les boss bonus, ils te rajoutent Sly, ils te rajoutent les maîtres, ils te rajoutent Absolute Radiance, ils te rajoutent. Tu dois t'enchaîner Grimm, puis Nightgrim, plus machin, plus. Zot en version 13.
Il est plus installé le jeu, c'est dommage. Parce que moi, je me serais bien refait certains boss. Tu vois, moi, par exemple, le combat des Mantis Lord, moi, j'avais vraiment.
Il est exceptionnel. Vraiment adoré, c'est vraiment un combat qui est cool.
La musique est très bien aussi, je me souviens.
Et puis, même, t'as ce sens-là du détail. Parce que vous savez, on en a 3, mais en fait, il y a 4 trônes. Et le 4ème trône, c'est celui du traître qui est dans la Jardin des Reines, qui est lui une mante qui a grossi parce que justement, il a cédé à l'infection. Ouais. C'est le Akuma de Hollow Knight, tu vois. Il a cédé au Mesatsu Hado, je sais plus comment on dit. Et vraiment, c'est ce genre de petits détails qui fait que même quand t'as fini le jeu, t'as envie d'aller regarder des vidéos, regarder des trucs, parce que il y a une richesse en fait qui est assez.
Il y a toujours des petits détails.
Qui est limite, moi je trouve aberrante en fait. On en discutait en parlant dans le jeu, dans l'émission. C'était. Limite, je trouve qu'ils font du mal à l'industrie tellement ce jeu il est généreux, tu vois. C'est-à-dire que c'est 15 balles, tu peux y passer 40 heures et il y en a pas trop parce que c'est justement cette générosité qui te conquit. Tu vois, qui te conquis, ça marche. Et vraiment, c'est trop limite. Tu dis, mais vous êtes des malades, quoi. Vous êtes
fait ça avec même pas 100 000 dollars.
Non, mais c'est des malades.
En ayant un job à côté, tu vois, enfin, ils étaient que deux. Puis bon,
c'est
à
pas
la
normal
fin,
de
allez,
faire
on
un
quatre,
jeu comme ça, quoi. C'est vraiment pas normal, quoi.
Non, mais ça, par contre, c'est vrai qu'il faut l'insister là-dessus. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure pendant les préparatifs. C'est à chaque fois le. Mais ouais, en fait, c'est des fous. C'est juste des fous. De faire un truc aussi dense, aussi long, avec autant de liens, d'interconnexions, la musique, les voix, les machins. Il y a 100 PNJ, enfin il y a je sais plus combien, il n'y a pas 100 PNJ, mais il y a des centaines de monstres, il y a des dizaines de boss, il y a je sais pas combien de PNJ, ils ont tous une histoire. Tu sais, tu pourrais commencer, il y a des tablettes de lore qui te racontent la vie de tout le monde. Enfin, c'est complètement fou d'arriver à faire un truc pareil. C'est complètement fou d'arriver à un truc
limite,
pareil, et ça explique finalement le succès
fou,
du jeu.
Ouais, mais c'est trop fou, tu vois, c'est vraiment parce que tu te dis, limite, ce jeu-là, si tu le prends comme standard, moi je vois de plus en plus de gens qui disent, ouais, moi les jeux indés, franchement, 20€ pour 2 heures, ça me va pas, regarde Hollow Knight, c'est 15€ pour 35 heures, tu vois. Et tu te dis, ouais, c'est vrai que ces gens-là, ils ont fait un espèce de truc de fou, alors je sais pas, est-ce que c'est leur méthode de travail, est-ce qu'ils justement, ils jettent très peu, ou est-ce qu'ils sont très efficaces, je ne sais pas, tu vois, mais c'est vrai que c'est un jeu de malade mental, tu vois, qui fait peur. Ouais. Moi je serais un mec qui développe des jeux indé, je me dis putain, je veux faire un Metroidvania maintenant. Quand tu sais qu'il y a ça qui est sorti à côté,
c'est standard, quoi, c'est mort.
Fatigant quand même.
Ouais, tu sais, t'as Hollow Knight, puis quelques mois après, il y avait Chasm qui est sorti des limbes, qui était un ancien Metroidvania qui était passé sur Kickstarter très longtemps avant et qui s'inspirait vraiment très très fortement de Symphony of the Night, puisque l'idée c'était de proposer une descente dans un univers procédural dans des mines. Et le jeu, il y a Hollow Knight qui est passé par là, quoi. Donc c'est assez difficile maintenant. Tu vois, il y en a eu beaucoup, parce qu'on n'en a pas parlé dans le contexte, mais c'est vrai que le Metroidvania, c'est un genre qui est ultra populaire. Il y en a des centaines. Régulièrement, il y a des Metroidvania qui arrivent sur Kickstarter, parce que c'est un genre que tout le monde aime bien. C'est assez. Aux États-Unis, c'est particulièrement parlant. Tu vois, tu regardes les chiffres de vente de Metroid, typiquement, ils se vendent trop trop bien aux États-Unis. Au Japon, ça marche bien, mais c'est pas la folie. Alors par contre, aux États-Unis, le moindre Metroid, c'est bon, c'est banco, quoi. Et du coup, il y a ce succès en fait de ce genre-là. Mais aujourd'hui, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours dit, et tu vois, la dernière ligne hein, de notre Fifi, je pense c'est moi qui l'ai écrite, donc je suis biaisé. Mais c'est marqué le meilleur Metroid depuis Metroid. Mais oui. Non, mais pour moi, c'est vraiment le nouveau standard. C'est-à-dire qu'il y avait eu Metroid il y a très longtemps, il y a eu Symphony of the Night. Aujourd'hui, il y a Hollow Knight, et tous les autres à côté, ils sont en dessous. Ils ont remis la barre tellement haut, quoi. Et en plus, là, ils font une suite. Et tu dis, ça va être aussi dense. Ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, mais à quel moment vous avez eu le temps de travailler sur Silksong? Tu vois, ils disent ça fait 2 ans qu'on prépare le jeu, mais attendez, vous étiez en train de faire Godmaster plus ça et puis le portage PS4 et puis le portage One et puis le portage
Switch. Les
mecs
ne sont pas devenus 25 entre temps, quoi.
Ils sont toujours deux,
c'est toujours une petite équipe.
Parce que parmi les Metroidvania qu'on peut citer qui sont sortis du côté indé, parce que on disait il y a un peu ce côté entre guillemets, tu peux être assez scolaire en fait avec le Metroidvania où tu vas prendre ton level design, tu vas dire le pouvoir A il débloque le type de chemin A, et tu t'imbriques un peu les zones et il suffit de, et puis même comme on le disait, Hollow Knight il révolutionne pas vraiment ça, parce que t'as quand même du double saut, du wall jump, du dash, ça t'es à la maison, tu vois. T'as pu avoir Ori, t'as pu avoir Cave Story, Axiom Verge, Iconoclast, The Messenger, et là comme on le dit, mais c'est qu'après Hollow Knight, il y en aura peut-être plus, que les mecs qui vont dire non, en fait on n'est pas capable, tu vois.
Rien que sur la direction artistique, sur l'esthétique, tu te dis déjà les enfants, il va falloir se calmer.
En même temps, ils arrivent avec un avantage, t'as un type, t'as un des deux gars, ça fait 15 ans qu'il fait des dessins animés. Ben ouais, enfin tu vois, le gars qui a fait Ghost of a Tale tout seul, ben, c'est un ancien gars de chez Pixar et il a dirigé des films, quoi.
C'est là que le jeu vidéo a vraiment tout à gagner, à apporter des gens qui viennent d'autres sphères, en fait, qui viennent de l'animation, des trucs comme ça, parce qu'ils vont apporter, s'ils comprennent bien les codes du jeu vidéo, tu vois, ils peuvent tellement sublimer ce qu'il est. Et ouais, un Metroidvania qui est pas en pixel art, déjà, finalement, c'est assez rare. Et tu te dis, enfin tu vois, moi, il y avait Ori qui était sorti, je me souviens, qui était sorti l'année d'avant.
C'était l'année d'avant, c'était la grosse exclue indé chez Microsoft, hein, parce qu'il avait été très mis en avant.
Moi, j'avais pas tant accroché que ça, et bon, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment
visuellement
bien. Justement, tu vois, c'est marrant, parce que moi, je trouve qu'il y a une espèce de richesse visuelle dans Ori qui nuit à la lisibilité, et qui fait qu'il y a plein de passages où c'est pas tout, où c'est un peu, ça peut être un peu fouillé.
Ben, en fait, il y a une petite inertie dans certains sauts qui font qu'en fait, t'as toujours une espèce de malaise qui est très peu perceptible, mais quand tu te déplaces dans le jeu, il y a toujours des petits moments de flottement qui font que le jeu il est pas si carré que ça. Et en plus, il y a des moments où le jeu il triche pour te laisser passer à certains endroits et tu les sens un peu trop. Alors que t'as pas ce côté justement ultra carré, ultra formel d'un Hollow Knight. Mais bon, Ori, ça reste cool, hein. Tu vois, moi je l'ai refait après coup, tu passes un très bon moment, il y a des passages un peu foufou, mais pour toute cette débauche d'effets visuels, etc., bah, il ne fait que toucher du doigt la richesse réelle de ce qui se passe dans Hollow Knight. Moi, j'en ai des souvenirs où je posais la manette, j'étais dans mon stream en train de jouer au jeu, je me suis dit, mais c'est des malades mentaux les jeux, quoi, quand tu te transformes en Astro Boy et que là, d'un coup, tu deviens un monstre de cristal et que tu te déplaces à travers l'écran et que tu traverses 6-7 écrans d'un coup, t'es là. Ouais, ils sont complètement tarés.
Et du coup, juste pour l'anecdote, dans Ori, ça peut nuire vraiment au truc. Enfin, moi, je l'ai pas fait, du coup.
Il y a vraiment des passages en fait où ça fourmille trop en fait en termes visuels et t'as des problèmes de lisibilité, de dire avec quel objet je dois interagir tout simplement.
Ouais, il y a beaucoup d'explosions, beaucoup d'effets visuels, donc des fois tu sais plus trop où t'es. Quoi.
Alors que voilà, dans le Night, c'est très très.
Et
carré,
pourtant, dans le Night, il y a beaucoup de saloperies. Tu vois, au premier plan, t'as des choses que tu peux casser qui servent à rien. T'as des choses en fond, des petits éléments, des particules ou des trucs. Qui passe, mais c'est vrai que c'est complètement lisible.
C'est très lisible, bah parce que je pense que voilà, encore une fois, c'est le travail de quelqu'un qui sait dessiner, qui sait animer et qui arrive à créer en fait cette espèce de, vous savez, ces espèces de différents plans qu'on arrive à observer et qui fait que ton personnage et les éléments avec lesquels tu peux interagir sont vraiment au premier plan et que tu te rends compte de qu'est-ce qui est le décor derrière en fait. Et ça, voilà, t'as une vraie lisibilité.
Extrêmement, on a vu des vidéos sur internet. Il y en a une qui analysait un petit peu ça, qui disait que il y a une différence en fait de frame. Exactement. Par seconde entre toi, les PNJ et en fait les ennemis, les éléments du décor, et du coup ça participe
exactement
à ce
cette lecture-là de l'œil, quoi. Et puis bah, dans Ori, c'est vrai que t'as des gros pics de difficulté. Moi je me souviens le moment où t'as une espèce de l'eau qui monte dans un arbre, et ça c'est très tôt et c'est très difficile, tu vois. Et alors que Hollow Knight, c'est vrai que ça monte vraiment crescendo.
C'est beaucoup plus court en termes de contenu.
Oui, c'est pas pareil, mais bon, moi c'est jamais un reproche que je fais. Le contenu pour moi c'est pas un problème, mais c'est vrai que d'ailleurs, même moi je suis plutôt à l'inverse. Pour moi, un jeu qui est trop dense en général, c'est plutôt une critique pour moi. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Je préfère toujours la justesse. Mais là, dans Hollow Knight,
que c'est la débauche.
C'est ça, je me prends des vagues tout le temps et je fais continue, tu vois.
La durée de vie, c'est jamais un argument, dans le sens où, comme tu disais, ce fameux homme de paille qui allait dire Hollow Knight, c'est 35 heures à 15 euros. Je vois pas pourquoi je jouerais un indé de 2 heures à 20 balles et tout. Mais l'indé qui va durer 2 heures, s'il en durait 3, en fait, il serait moins bon, il serait moins intense, moins juste. Et Hollow Knight, tu vois, 35 heures, ça veut rien dire sur le papier. Mais c'est vrai que quand ils jouent, ça
fonctionne.
Pas,
mais ça, c'est parce qu'ils ont vraiment un process créatif où je pense qu'on a tous à gagner, à partager, à ce qu'ils viennent à la GDC et qu'ils fassent plus de post-mortem, parce qu'ils ont pigé un truc que les autres n'ont pas. Et ça, comme tu dis, alors d'une, ça fait mal à l'industrie, mais il faut que les autres en profitent en fait. Parce que si on est capable de faire des jeux comme ça, qui sont d'une richesse et d'une densité folle, etc., et que ça, on peut le faire avec peu de moyens, il faut qu'on comprenne comment. Parce que du coup, ça veut dire que, comme tu le dis très justement, il faut amener des gens avec une expérience d'autres domaines. Ça, pour moi, c'est essentiel et c'est ce qui se passe ces dernières années, donc on le ressent beaucoup. Et il faut que ces personnes-là, elles apportent leur méthode de travail, parce que les développeurs, je veux dire, il n'y a pas une règle, tu vois, on ne sait pas encore. On n'est pas dans un milieu qui est aussi codifié. Tu vois, faire un film, on sait faire des films, on peut t'expliquer. Il va y avoir des gens, c'est leur métier, même si toi, tu n'as jamais été réalisateur et que tu es youtubeur, tu peux devenir cinéaste demain, parce que tu as des tonnes de gens qui, autour de toi, vont te donner ton métier et toutes leurs compétences.
L'industrie est beaucoup plus cadrée, formatée dans le cinéma par rapport aux jeux vidéo, ça c'est
complètement. Alors que là, dans le jeu, pas encore, tu vois, il y a plein de trucs où il y a des gens où les mecs de No Man's Sky, ils vont se dire on va faire un univers procédural et puis on va être 5 et puis ça va trop bien marcher, et t'avais pas un type qui leur a dit non les gars, vous allez pas faire ça, vous allez faire moins. Et non, mais bon, c'est un exemple facile, mais tu vois, on pourrait reparler encore une fois de Star Citizen. À un moment donné, les process de travail, les méthodes et cette expérience-là, c'est aussi une des choses qui manque encore aux jeux vidéo et qui est en train d'arriver. Et quand on voit le gap entre Hollow Knight et ça, je pense que le secret du « mais ils sont fous, comment ils ont fait ?», ça vient de essentiellement ça.
Après, en partie, il y a une chose quand même à soulever. J'imagine que le fait que le mec soit fondateur et dirigeant d'un studio d'animation, il avait quand même une source de revenus. Alors, on ne sait pas exactement s'il travaillait sur ça à côté ou s'il avait juste des rentrées d'argent du fait qu'il soit cofondateur. Parce que, comme on le disait, c'est important aussi à rappeler, c'est qu'ils n'avaient pas un budget énorme. T'as plein de jeux qui vont avoir un budget supplémentaire, en tout cas un budget en termes de Kickstarter et de Indie Fund, ce qu'on a pu citer, qui était environ 100 000 $ pour trois personnes qui doivent financer d'autres personnes autour sur 3 ans. C'est rien. Il y a plein de jeux qui ont eu un budget peut-être supplémentaire à ça, mais qui n'ont pas réussi à faire plus. Moi, j'imagine quand même que le mec, il avait des rentrées d'argent quand même assez importantes, donc ça, c'est quand même pas à oublier non plus.
Ah oui, non, c'est sûr, ils avaient, ils devaient avoir des droits d'auteur, des chiffres de vente, de trucs, de royalties, etc. Évidemment qu'ils n'ont pas fait ça avec des bouts de ficelle, mais malgré tout, c'est plus, même sans compter le côté financier, réussir à faire autant de choses aussi bien, aussi carré, et qu'il y ait autant de choses à l'arrivée.
Sans venir de l'industrie du jeu vidéo.
Et sans venir de l'industrie du jeu vidéo au départ.
C'est la vraie surprise.
C'est ça qui est fou, quoi.
Moi, je me l'explique que parce que justement, c'est un Metroidvania qui est classique, quoi. C'est vraiment, en me disant, ils ont vraiment pris un cadre, parce que le Metroidvania, c'est un des genres qui est les plus codifiés. Si vous faites un truc 2D, t'as vraiment des grosses bases de design, quoi, et tu dis ok, c'est une bonne idée pour faire un premier projet, quoi, mais tu te dis quelle réussite sur un premier projet. Moi, je suis vraiment impressionné, tu vois, quand on a fait les, moi je savais pas, tu vois, que ces gens là ils avaient pas ce background là, et c'est vraiment impressionnant quand même. Ouais.
C'est le meilleur Metroid like de tous les temps, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Oubliez Symphony, oubliez Metroid, il y a Hollow Knight et puis il y a le
reste. Et du coup, impatient de voir ce que va nous réserver la suite, parce que bon, même si, encore une fois, j'imagine que ce sera le même canevas de Metroidvania, sur les boss, ok, on sait ce qu'ils vont réussir à faire, on sait de quoi ils sont capables. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Hornet, parce que elle a cette mécanique avec son fil. D'ailleurs, je crois que cette fois-ci, ça va plus être l'espèce de petit orbe qui se remplit d'âme, cette fois-ci, c'est une espèce de petite...
tu vois une bobine,
un bigoudi.
un bigoudi.
Voilà, exactement. Donc,
mais du coup, c'est le même, a priori, le même fonctionnement
Qui se remplira, je ne sais pas, mais on utilisera du fil. Apparemment, ouais, ça va vraiment être le truc, puisqu'elle est la fille donc de la reine des araignées, n'est-ce pas? Et du coup, je suis super curieux. Ils ont appelé ça le acrobatic combat design ou je sais plus quoi.
Ouais, ça va être n'importe quoi.
Donc, très curieux de.
Parce que s'ils trouvaient pas ça acrobatique dans Hollow Knight, dans le Colisée, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Moi, j'ai vraiment posé la manette l'autre jour en disant c'est bon, j'y arrive plus. Tu vois, j'avais pas la patience ou j'avais plus les réflexes. J'en sais rien. J'ai peut-être trop joué à Sekiro, mais là, c'était vraiment trop difficile. C'est le moment où je me suis dit stop.
Non, mais j'étais
vraiment arrivé au bout, quoi.
Autant, moi, je me dis qu'il y aura pas cette découverte, tu vois, de la DA, parce que j'imagine que ce sera à peu près la même, mais j'en demande encore plus en fait, de vraiment voir ce qu'il peut faire avec les couleurs, les zones. Juste, moi je me souviens à un moment, c'est quand t'as l'espèce de papillon de nuit là qui te donne le Dream Nail, t'as des espèces de pierres avec des boss, des morts avec des fantômes, et t'as une zone cachée ici, et c'est un truc tout bête, hein, c'est une petite zone cachée avec un banc, et en fond t'as des espèces de carcasses de grands papillons de nuit, et c'est trop beau, tu vois. Il y a plein d'endroits comme ça qui sont magnifiques, et j'imagine que je peux encore faire plein de tableau comme ça.
Ouais, c'est ça, en fait, ils nous ont imprégné la rétine, vois, et nous ont aussi marqué dans les doigts, parce que c'est un jeu qui est extrêmement agréable à jouer, et finalement, est-ce que c'est pas ça la formule, tu vois, pour vraiment s'installer un petit peu, je sais pas, dans le panthéon, je vais peut-être pas partir dans le délire, mais voilà, c'est un jeu, tu vois, qui a vraiment pris sa place dans le paysage, peut-être des indés qui ont vraiment marché, qui ont vraiment su s'imposer, qui ont su pousser même des choses anciennes comme ça. Moi, je le mets un peu à côté de Darkest Dungeon, tu vois, c'est des jeux qui ont vraiment réussi à marquer les trucs par leur proposition, leur direction artistique, et qui sont des noms avec lesquels il faut compter maintenant aujourd'hui, quoi.
Ouais. Et qui a la chance en plus d'avoir un gameplay et un format hyper adapté à la Switch, qui est un peu la console du moment entre guillemets, et c'est vrai que tu peux que le conseiller, mais que ce soit sur Switch, il est aussi sur PS4 et tout évidemment, mais c'est un succès qui va être phénoménal.
Et sur Fangamer, ils viennent de sortir le Wanderer's Journal, qui est encore en précommande, donc c'est un artbook avec l'histoire et les dessins de tous les personnages, de tous les ennemis, c'est une espèce de, comment t'avais appelé ça, d'encyclopédie, du jeu, donc voilà, ça coûte une quarantaine d'euros, si vous êtes vraiment fanatique, ça vaut le coup, quoi.
Ah bah là, on peut y aller, hein. Il y a des pulls, il y a des peluches,
tout ce qu'il faut à la maison, hein. j'ai mes petites peluches, j'ai déjà mon édition physique avec mon petit grub, parce qu'on en a pas parlé, des petits verres aussi, c'est trop mignon, mais bon, on peut pas tout parler,
c'est ça qui est
on pourrait en faire des heures.
Là, je me rends compte qu'on est déjà à plus d'une heure 20, ce qui est n'importe quoi, mais parce que justement, ce jeu, il est d'une richesse.
Il y a plein de boss, de PNJ, de zones qu'on n'a pas citées.
Et ça pourra continuer sur le Discord de fin du game, puisque on compte sur tous les les gens qui nous ont rejoints là-bas pour continuer à discuter et à partager leurs bons souvenirs de ce jeu. On remercie une nouvelle fois Third Edition, donc qui sponsorise cet épisode. On remercie évidemment nos patriotes, c'est vous le pilier pour faire tenir l'émission. On compte sur vous pour continuer à avancer, atteindre ce second palier.
Parlez-en autour de vous, hein, exactement. Je veux dire, récupérer la carte bleue dans le portefeuille de la grand-mère. Enfin, faites des trucs, je sais pas, mais à un moment donné... Non, mais par contre, c'est vrai que le bouche-à-oreille, moi je le dis à chaque fois, continuez, on commence à monter dans les classements sur les applications et tout. On a vraiment des fois des moments où on est ultra bien mis en avant, que ce soit sur Spotify, iTunes ou autre. Donc bah, merci beaucoup pour vos retours, continuez à le faire, quoi.
Ouais, on est hyper fiers de tout ce qu'on a réussi à construire jusqu'ici, et voilà, on est vraiment contents d'animer cette émission.
Et on prépare des trucs de fou, hein, parce que on a la liste des jeux, là, on s'est un peu énervé.
Là, je l'avais tweeté sur mon compte, mais moi, j'ai eu accès à la liste des jeux qui vont être faits jusqu'au début de l'été, et franchement, c'est des trucs de malade.
Jusqu'à l'été, il y a un bon line-up.
Il y a du lourd. Très bien, et bien on se retrouve dans 2 semaines pour justement en parler. Merci de nous avoir écoutés. Salut.
Salut.